Bonjour, bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir, bonjour, comment ça va? Est-ce que vous allez bien? Bonjour. Merci, Mr. DT Jungle. Merci, Karianne. Bonjour à vous. Est-ce que ça va bien? Attendez, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Nickel. Maladie, merde, t'as quoi? C'est chiant ça. C'est le temps maussade. J'attends un résultat pour les IRA vendredi. Oh, trop bien, je croise les doigts. J'espère que ça va le faire. Ça va mieux maintenant que t'es là. Arrête. Ça va bien sauf pour Castex et son premier jour de classe. Ah, apparemment, ça s'est mal passé, ouais. Ça va, tes lumières, ça a l'air puissant. Dis tout de suite que je suis sur X. Bonjour, bonsoir, merci à vous. Merci Red Butcher, merci Melclem, merci BRNG, merci beaucoup. Merci Draclight the Great. J'arrive pas à trouver mes cadeaux de Noël à la Fnac. Tu voulais offrir un jeu de société? C'est vrai qu'il faudrait qu'on en parle, ça. Peut-être qu'on le fera après. Non, mais pas ce soir. Ce soir, on a plein de sujets à aborder. Mais une autre fois. J'ai besoin de vos conseils pour les cadeaux de Noël. On en reparlera. Petite dédiée à Simon, t'as vu? Simon Puech. Let's go. T'as vu la vidéo de notre youtubeur Macron? Oui, je l'ai vu. Mais on va pas faire une review par chaque vidéo de Macron, hein, maintenant qu'il a décidé de sortir des vidéos YouTube régulièrement. Est-ce qu'on aura les résultats aujourd'hui du congrès LR? Non, 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 c'est en décembre. C'est la semaine prochaine. Fin de semaine prochaine, je crois. Un truc comme ça. Première fois en live depuis des mois. Eh bien, bienvenue à toi. Bonjour. Merci, Chrombopoulos. Mich, merci beaucoup. C'est pas ce week-end? Ce week-end, on est le combien? Attends. Ah, c'est peut-être ce week-end. On est le 4. Ah oui, si, 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 si. Le premier tour, si, si, t'as raison. C'est dimanche qu'on aura les résultats du premier tour. Et s'il y a un deuxième tour, ce sera le dimanche 11. Je crois que c'est ça. Ouais. Je suis aux aguets de chaque stream de gens, ça me fume. Est-ce que tu seras en stream pour la niche LR? Je vais essayer en vrai. Moi, ça m'a bien plu le stream de la niche parlementaire la dernière fois. Tiens, d'ailleurs, vous savez ce qu'on va faire? Calendrier, session parlementaire, Assemblée nationale, boum. Je vais noter dans mon agenda les niches. Décembre, la niche LR, c'est le jeudi 1er, donc c'est semaine pro. Ah, mais non, c'est cette semaine. C'est cette semaine la niche des Républicains. Eh ben, vas-y, let's go. Ce jeudi. Ok, donc ça, c'est noté. La niche du RN, ce sera le 12 janvier. Niche RN. Ok. La niche des socialistes, ce sera le 9 février. Je me le rajoute dans mon agenda, hein. Niche socialiste. La niche Horizon, ce sera le 2 mars. Niche Horizon. La niche des écolos, ce sera le 6 avril. La niche GDR, ce sera le 4 mai. Et la niche LIOT, ce sera le 8 juin. Voilà, hop. Boum, 8 juin. Voilà, j'ai mis dans mon agenda toutes les niches de l'année. Donc, je saurai. Ah oui, putain, c'est dès jeudi la niche LR. Et on sait ce qu'ils ont proposé comme loi. Il faut que je regarde. Il faut que je regarde. Bon, Bonjour, j'ai raté quoi? Ah non, t'as rien raté, on vient de commencer. Bonjour à vous. Tu seras au poil, niche J1. Je peux avoir un chenil, c'est l'année du chien dans le calendrier chinois. C'est bon, vous avez fait toutes les blagues? T'as loupé Modem. Ouais, Modem, c'était le 6 octobre. J'ai loupé le Modem, effectivement. Désolé, le Modem. Une loi sur les retraites des exploitants agricoles. Ok, d'accord. D'accord. On regardera ça. Demain, FAQ du gouvernement. Ouais, demain. Alors, je suis désolé, j'ai pas encore eu l'occasion de faire une programmation cette semaine. On peut bosser toute la journée. Demain, on fait la séance des QAG. Mercredi, on se refait une revue d'actu, je pense. Jeudi, on essaie de faire la niche LR. Et vendredi, on se refait une revue d'actu. Ou une FAQ, on verra. Ça vous va? Ouais, on va faire ça cette semaine. Le fait que tu aies loupé la liche Modem montre que LFI s'est bien communiqué sur son travail parlementaire, contrairement à d'autres groupes. Non. Pas particulièrement. C'est juste que le 6 octobre, je faisais autre chose. Je sais plus ce qu'on avait le 6 octobre. Non, ça c'est novembre. Ah oui, non, j'avais une journée de travail le 6. Sans dessus dessous. Ah, j'ai fait une faute de frappe dans le titre. Ça s'écrit sans S-E-N-S? Sens dessus dessous. Ça s'écrit sens et pas sans? Je croyais que c'était sans. D'accord. Ah, je savais pas. Tu peux rappeler rapidement c'est quoi une niche? Une niche, c'est juste un jour du calendrier qui est réservé à un groupe minoritaire pour qu'il puisse proposer ses lois. C'est ça une niche parlementaire, c'est juste ça. C'est juste un jour dans le calendrier où on discute des propositions de loi d'un groupe. Et chaque groupe a sa niche, comme on dit, donc son jour réservé dans l'année. Les deux sont OK. D'accord. C'est pour le sens et non la négation. Ok, et ben je savais pas. Et ben on en apprend tous les jours. Dis donc, c'est comme la fête bat son plein. Vous connaissez l'expression, la fête bat son plein. La fête battait son plein, la fête battra son plein, etc. Vous connaissez l'expression. Comment vous le dites au pluriel? Les fêtes, le soir de la fête de la musique, virgule, les fêtes battent. Merci Joafen. Battent leur plein. Eh ben non. Eh ben non. On dit les fêtes battent son plein. Parce que c'est le son qui est plein. C'est le son, le son. C'est pas le possessif. La fête bat son plein. Le son de la fête est un son plein. Voilà. Donc les fêtes battent son plein. Incroyable! Ah, vous allez pouvoir briller en son. Eh, on en apprend tous les jours, hein. Le son sonore. Ouais, voilà, c'est ça. Quel stream culturel, t'as eu ça? Stream Académie française. Académie française fera des streams après avoir publié son dictionnaire. Bientôt. Merci Diwan pour ton Issa, merci Captain Freebird, merci Joafen, merci Bougie, merci Jaffriz, merci Mouadib, merci Jed, merci beaucoup. Et pourtant, selon les sources que j'ai, lorsque la fête bat son plein, ce n'est pas qu'elle est bruyante, mais qu'elle est bien à son plus haut niveau d'intensité. Comme le son est un possessif, le pluriel devient les fêtes battent leur plein. Et bah, c'est pas la source que j'ai. Moi, la source que j'ai, c'est le son qui était plein, la sonorité. Comme quoi, selon les sources, ça change. Les deux se disent. Les deux sont acceptés. Alors qu'à la fête de la musique, les fêtards, c'est les fêtards qui sont pleins, exactement. La faute la plus courante, c'est malgré que. Alors non, la faute la plus courante, c'est quand on utilise le mot faute. Il n'y a pas de faute en orthographe ou en prononciation ou en français. Il n'y a pas de faute. Il n'y a que des erreurs. Un élève ne commet pas une faute d'orthographe, il commet une erreur d'orthographe. La faute, c'est moralement condamnable. Il n'y a rien de moralement condamnable à se tromper dans la prononciation ou dans l'écriture d'un mot. Donc déjà, c'est bon, hein, c'est bon, il y a un moment, ça va. Ce sont des péchés. Oui, c'est ça, un péché d'orthographe. Perso, je condamne, mais tranquille. L'éducation nationale en PLS. Ah non, mais les profs, les enseignants, on leur apprend à dire erreur. On leur apprend un enseignant en classe de petite section ou en classe d'école élémentaire, on leur apprend à dire aux élèves de ne pas faire d'erreur d'orthographe. Mais le mot, l'expression faute d'orthographe, c'est courant, mais c'est impropre, comme on dit. C'est une erreur. C'est pas une faute, c'est une erreur. Et malgré que, ouais, il paraît que ça se dit pas malgré que, on dit malgré le fait, malgré le. Enfin, c'est transitif, j'ai un truc comme ça. C'est comme parer au plus pressé. On ne part pas à quelque chose, on part quelque chose. C'est transitif direct, c'est ça? Je sais plus, je sais plus. Donc on part une attaque. L'escrimeur part une attaque. Mais il ne part pas à une attaque. Malgré le fait que, ouais. On ne et pallier aussi. Oui, pallier. Oui. On ne pallie pas au manque, on pallie le manque. C'est vrai. C'est la même chose. On dit je veux jouer à une partie de jeu vidéo et non pas je veux game. Et pour rappel que le prescriptivisme linguistique, c'est caca. Oui, les langues évoluent et c'est normal que les choses changent. Tout à fait. Pécuniaire aussi et pas pécunier. Ah ouais? Ah peut-être. On dit pas petit Minecraft? On rentre que si on est déjà entré une première fois. Ah, ça veut dire re-entrer, rentre. Ah, ok, je savais pas. Bah non, rentrer chez soi. Ah ouais, tu penses? Non, je sais pas. Peut-être, peut-être, peut-être. Rentrer à la maison? Retourner? Ah, retourner. C'est comme on amène que ce qui a une main. On amène une personne. On prend par la main. Amener. Mener. Le reste, on l'emporte. On dit pas emmener. Si, on peut dire emmener, mais à propos d'une personne. J'emmène maman chez le dentiste, mais j'apporte le dessert ce soir. On peut amener de nouvelles idées. Non, on n'amène pas des idées, on apporte des idées. Le stream est sponsorisé par le Becherel. On amène quelqu'un, on apporte quelque chose. Voilà, c'est ça. On amène une voiture. Non, on apporte une voiture. On conduit une voiture. Ces corrections seront dûment ignorées. Oui, c'est sûr. C'est comme à la campagne et en campagne. Qui se dit seulement quand il s'agit d'une campagne militaire ou politique. Ah, en campagne. Ah oui, au sens de campagne, mener campagne. Ah oui, mener campagne. Campagne publicitaire, campagne militaire, campagne politique, campagne de communication. Alors que à la campagne, c'est géographique. Ah, j'ai l'idée, j'ai l'idée. Ouais, ça a du sens. Make sense. Et c'est comme on dit pas sur les territoires, mais dans les territoires. Ah, mais ça, y a que les sénateurs qui disent ça, donc. On amène à manger seulement entre cannibales, donc. Oui, c'est ça. On amène à manger chez les cannibales, mais pas ailleurs. Personne ne dit en campagne pour dire à la campagne. Oui, je suis d'accord. Si, j'ai déjà entendu des gens sur des localités précises, par exemple en Avignon. On dit pas à Avignon, on dit en Avignon. Je sais pas pourquoi, je sais pas qui m'avait dit ça. Les vrais, ils disent en Avignon. Ah ouais? Je vais en Avignon. Ah ouais. C'est quand ça commence par un A. Ça, c'est Pons. Ah, c'est peut-être Pons. Je vais en Anjou, je vais en Alsace. Oui, non, mais l'Alsace, c'est. C'est une région, donc. C'est pour pas doubler le A. Hein? Les bourgeois vont en Avignon. Ça fait longtemps que t'es pas allé au festival, toi. N'hésite pas. N'hésite pas à y faire un tour, ça te fera du bien. On n'habite pas en Amiens. Oui, c'est vrai, je vais à Amiens. Et non pas je vais en Amiens. À vélo plutôt qu'en vélo. Ouais, ça je l'avais appris aussi. Non mais là je fais genre le mec qui s'y connaît, mais en fait vous avez bien compris parce qu'à chaque fois moi je fais l'erreur. Hein. Je suis le premier à faire l'erreur tout le temps. L'Avignon, c'est aussi la région autour. Oui, c'est vrai, le pays d'Avignon. Le pays, comme on dit. Tu dis toujours un espèce alors que c'est une espèce et ça me rend dingue. Ah ouais? Un espèce? Mais je sais pas, moi j'accorde masculin ou féminin en fonction de l'espèce de c'est quoi dont on parle. Il faut pas, faut dire une espèce? Une espèce de. C'est invariable. D'accord. Ça s'accorde pas. Ah d'accord. C'est comme une union. Ok. Espèce est un nom. Ouais, non, non, mais c'est comme j'utilise sous forme d'adjectif. Une espèce de. Xari va te tuer. Oh merde, Xari. Oh, je suis déso. D'accord, donc faut que j'arrête de dire un espèce. Ça va être dur, hein, parce que alors ça, pour le coup, c'est ancré. Hein. Je sais pas, c'est un espèce de tic de langage, quoi. Oh, oh merde. Oh non, parce que maintenant que vous m'avez fait la réflexion, il va falloir que je m'en souvienne. T'as qu'à dire un genre de. Ouais, on va dire genre. C'est un genre de. Tu payes comment? Une espèce. Imagine sorte à la place d'espèce. Une sorte. Ouais, t'as raison. Une espèce. Putain, on est deep ce soir, hein. Dans les erreurs communes, Macron est de gauche. Ah ouais, mais il n'y a pas vraiment de convention là-dessus. C'est ça le problème. Eh ouais. Enfin, c'est une convention questionnée. En mutation constante. À part ça, les LR. Ouais, alors les LR. On va en parler. Ce soir, on va faire une revue d'actu spéciale. Regardez ce que j'ai acheté chez mon marchand de journaux. Le Figaro Weekend, qui vient avec son lot de magazines. Alors j'ai acheté ça chez un débitant de papier tout à l'heure, enfin un marchand de journaux comme on dit. Le Figaro, vous connaissez? Le Figaro, c'est un site internet d'actualité qui draine assez large en termes d'actualité. Et ils ont la particularité comme site internet d'aussi proposer leur site internet en version papier. C'est voilà, c'est une technologie à base de pâte de bois cuite et pressée sur laquelle on peut inscrire les informations qui sont déjà sur le site internet. Et donc le Figaro Weekend, voilà, ça sort tous les jours, hein, c'est un quotidien, le Figaro. C'est un site internet qui est quand même mis à jour assez régulièrement. Donc le Figaro en version papier. Ils viennent aussi avec ce qu'on appelle les pages saumon du Figaro, c'est la couleur du Figaro économie, les pages saumon du Figaro. Plutôt un bon truc d'économie. Ils font des dossiers d'analyse assez intéressants. Là, ils ont un dossier spécial sur le prix de l'énergie et la régulation européenne qui met du temps à arriver. Comment les géants du tabac résistent à la baisse des ventes de cigarettes. L'inquiétante dérive financière de la formation professionnelle. Le blocage européen sur le plafonnement du prix du gaz inquiète les industriels. Donc voilà, c'est un journal historique de la droite française, Le Figaro, et de plusieurs droites d'ailleurs. Hop. Donc voilà, mais ils ont des articles d'analyse assez intéressantes. Ils ont aussi Le Figaro et vous. J'ai jamais bien compris ce que c'était que Le Figaro et vous, je t'avoue. Je crois que c'est un truc de... C'est lifestyle en gros, c'est ça? Ils font de la déco, ils font des trucs. Je sais pas. Ouais, c'est de la culture, jardinage. Ah, il y a des mots fléchés, c'est bien ça. Il y a la météo. Je sais pas, je lis jamais. Je m'intéresse pas des masses, je vous avoue. Comment on fait les mises à jour? Il faut que tu retournes le lendemain à acheter la mise à jour. Du coup, ils font la mise à jour de la version papier du site internet tous les jours. Tu peux même te le faire livrer chez toi. Hop. Alors, c'est venu aussi avec... Le Figaro Magazine TV. Alors TV, je vous rappelle que ce sont les initiales de télévision. Donc c'est la fameuse, on avait déjà parlé, la technologie du siècle dernier qui consiste à envoyer un flux d'images et de sons en direct sur des récepteurs qu'on appelle des téléviseurs. C'est pas interactif, hein. Et donc, ils ont un magazine spécial pour les gens qui apprécient ce type de diffusion de contenu linéaire. Et dans ce magazine, ils proposent des analyses de ce qui est diffusé en ce moment dans les récepteurs télévisuels. Et ils ont ce qu'on appelle les programmes. Ce magazine sert à mettre les programmes. Donc parce que toutes les chaînes de télévision, parce que c'est organisé par chaîne aussi, un peu comme YouTube et Twitch, sur différents canaux de diffusion, chacune des chaînes publie à l'avance, enfin informe à l'avance des diffusions à venir. Et donc ça permet à ces magazines de proposer des programmes. Et donc ça se présente sous forme de tableau comme ça, et donc au siècle dernier, à l'époque, oh, c'était encore le cas au début du siècle, on avait un programme télé sur la table basse, et avant d'allumer le téléviseur, on regardait qu'est-ce qui est diffusé en ce moment. Et donc on savait à quelle heure étaient les rendez-vous, parce que comme c'est linéaire et pas à la demande, on devait allumer à la bonne heure pour voir le programme. C'était très très chiant. Bon, maintenant ça s'est amélioré grâce aux box, etc. Mais ça existe toujours et donc les programmes télé existent toujours. C'est marrant, ils continuent à diffuser ça. Donc évidemment en version papier, hein, ça aussi. C'est un peu comme l'onglet programme de Twitch. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais en version papier, tu vois, tu le recevais à la maison. Et bah, demandez à vos parents et vos grands-parents, ils vous expliqueront. Hein. Donc on tournait les pages le soir et on disait, tiens, il y a quoi à la télé ce soir? Et on regardait comme ça des tableaux pendant des heures pour savoir, ah tiens, c'est à quelle heure ce soir, il y a quoi comme film, machin, machin, machin. Et voilà, ils en profitent pour faire une petite publication avec des interviews, des machins, des stars. Ça parle de ciné, ça parle de machin. Voilà. Donc ça s'appelait un programme TV. Et donc le Figaro a sa propre version du programme TV. Donc voilà, vous saurez maintenant le TV que vous voyez sur ce genre de magazine, ça renvoie à télévision. Donc ce type de média un peu particulier. La possibilité de mettre un bloqueur de pub. J'avais un pote qui avait développé un bloqueur de pub pour sa télé. Il avait fait lui-même. Le Figaro, ils ont aussi Madame Figaro. Madame Figaro, c'est le magazine féminin. Donc ça c'est pareil, c'est un magazine, mais pour le coup c'est pas tous les jours. Hein. Ça c'est uniquement le week-end. Donc c'est un magazine féminin avec. C'est pas tout à fait le genre de littérature que je lis. C'est moi de ce que j'ai compris, c'est essentiellement quand même des fascicules publicitaires qui sont entrecoupés de qui sont entrecoupés d'articles parfois. Mais voilà. C'est surtout autour de la culture, autour de... Bah, c'est ce qu'on appelle lifestyle, en fait, nous, sur Internet. Alors, ils ont aussi des publicités cartonnées qui pèsent une tonne avec un échantillon de parfum qu'ils mettent directement sur le papier. C'est assez impressionnant comme technologie. Voilà. Donc ça aussi, vous pouvez vous abonner et le recevoir chez vous, ou alors vous pouvez le trouver sur la table basse dans votre salon de coiffure ou de votre médecin généraliste. Mais il y en a qui le reçoivent à la maison, ouais, ça arrive. Mais voilà quoi. T'as des gens qui ont quand même des pubs sur des doubles pages en couleur. C'est genre un pré-roll physique. Ouais, mais il y en a beaucoup des pubs. Hein. Il y en a beaucoup, beaucoup. Mais il y en a plein de différents des magazines féminins. Et alors là, du coup, ils nous ont. Ah oui, il y a aussi le catalogue printemps en même temps, qui est livré avec. Donc c'était dans le même sachet, le catalogue printemps. Bah oui, comme c'est Noël, c'est le catalogue printemps. Donc les grands magasins, si vous voulez offrir des cadeaux de Noël, t'as des suggestions. Donc ça, c'est faut penser aux personnes qui n'ont pas de chat Twitch avec qui discuter sur les idées de cadeaux. Ils peuvent faire confiance à des catalogues comme ça mis à disposition par des magasins. C'est un peu l'équivalent du site internet de printemps, mais que eux aussi ont édité en format papier. Donc ils ont mis leur site internet sur des pages de papier recto verso pour les personnes qui sont plus habituées à utiliser ce type de publication papier que d'aller sur le site internet de printemps, quoi. Hop. Hop. Et surtout, ils ont le Figaro Magazine. Le Figaro Magazine, qui est la version hebdomadaire du quotidien Le Figaro que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, c'est un format plus petit et plus maniable que l'énorme feuille de papier là. C'est un papier différent, c'est un papier glacé. C'est une technologie qui permet d'avoir des couleurs un peu plus belles, ce qui est utile lorsqu'il s'agit de faire des publicités, puisque ça aussi, du coup, c'est un gros fascicule publicitaire entrecoupé d'articles, mais pour le coup, avec des articles un peu plus longs. Il y a des enquêtes, il y a des dossiers. En plus, ah putain, vraiment, ce numéro, il est très épais, hein. Le Figaro Magazine de cette semaine, enfin du week-end dernier, pardon. Combien il coûte? Ah, je crois que tu peux pas l'acheter solo. Ah non, c'est forcément avec l'édition du Figaro, d'accord. Je sais pas, ça a dû me coûter une blinde. C'est le OLED du papier, ouais. Ouais, c'est cher, hein, le Figaro Weekend, c'est cher. Je sais plus combien je l'ai payé d'ailleurs. Je vais regarder sur mon appli bancaire. Ah non, j'ai pas encore la mise à jour du truc. Je sais plus. Ouais, ça doit être 8-10 balles, un truc comme ça. Pour avoir. Du coup, t'as le Figaro du jour, le Figaro Économie, le Figaro et vous, Figaro Madame, Figaro TV et Figaro Magazine. C'est 6,50 €? 6,50, d'accord, ok. Seulement? Putain, c'est pas cher. Donc voilà, pourquoi je l'ai acheté? Parce que le Figaro Magazine a sorti une édition spéciale à l'occasion du congrès des Républicains qui a lieu à la fin de la semaine, là. Une édition spéciale du Figaro Magazine autour des débats qui agitent en ce moment la droite en France, notamment la droite républicaine, mais pas seulement, parce qu'évidemment c'est lié. Il y a de la pub pour du foie gras. Et donc je voulais le lire avec vous. Je voulais le lire avec vous, parce qu'il y a sûrement des trucs intéressants à lire. Je crois qu'il y a une tribune d'Éric Zemmour dedans. Alors, ils ont mis Éric Zemmour en une, alors que c'est le congrès. Enfin, c'est le congrès des Républicains qui doit désigner le président du parti parmi ces trois visages-là. Ils ont rajouté le visage de l'ancien président du parti, Laurent Wauquiez, qui est pressenti pour être un candidat potentiel. Pour 2027. Ils ont également mis Édouard Philippe, l'ancien Premier ministre, parce qu'il a créé le parti Horizon qui se donne pour vocation d'être un aspirateur de la droite vers la majorité d'Emmanuel Macron. Et ils ont rajouté Éric Zemmour, parce qu'Éric Zemmour, bah, c'est un ancien journaliste maison du Figaro Magazine, c'est un peu le candidat du Figaro à l'élection présidentielle qui avait fait 7%. Ce qui donne pas cher, hein, pour un magazine comme le Figaro avec l'influence qu'il a à droite. C'est un peu une contre-performance pour le Figaro d'avoir fait que 7%. Mais bon. Et ils n'ont pas mis Le Pen, effectivement. Ils n'ont pas mis Le Pen. On va essayer de voir pourquoi. Je suppose qu'ils n'ont pas mis Le Pen déjà parce que c'était une femme et que visiblement ils tiennent à ce que ce soit que des bonhommes. Ça reste la fête à la saucisse. Non, ils n'ont pas mis Le Pen, je sais pas, sans doute parce que Marine Le Pen ne souhaite pas l'union des droites dont Éric Zemmour essaie de se faire le chantre. On va en discuter. C'est qui le propriétaire du Figaro? C'est le groupe Dassault. C'est le groupe Dassault. Ça tire à boulet rouge sur le Figaro. Bah non, je tire pas à boulet rouge sur le Figaro. Surtout qu'elle est de gauche, économiquement parlant, pour eux. Je sais pas si le Figaro s'amuserait. Alors, le Figaro, c'est un grand quotidien national français qui est historiquement le quotidien de la droite française, mais de beaucoup de droites. Ça va de l'extrême droite jusqu'au centre droit, du centre droit jusqu'à l'extrême droite. Ça englobe la famille des libéraux, ça englobe la famille des conservateurs, des européens, et aussi des réactionnaires et d'une partie de l'extrême droite, notamment via Éric Zemmour. Mais je suis pas sûr que le Figaro. Très très Marine Le Pen, quand bien même elle a mis le paquet sur la question du pouvoir d'achat au cours de la présidentielle de candidate de gauche. Je pense que. Les Républicains sont pris en tenaille. Oui, complètement. Y a-t-il une différence éditoriale entre le Figaro et le Figaro Magazine? Non. Non, enfin, c'est les mêmes équipes. Enfin, il y a une différence de format, donc une différence de traitement de l'actu. C'est un hebdo versus un quotidien, donc ils travaillent pas tout à fait de la même manière, mais c'est la même rédaction. C'est la même rédaction. Économiquement, elle se rapproche de Mélenchon. Marine Le Pen? Non, 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 non. Enfin, non. Si toute personne qui propose. Une intervention forte de l'État pour protéger les bas revenus et mélenchonistes, ça recouvre un tellement large spectre du paysage politique que ça devient un peu absurde. Non, on est obligé de rentrer dans le détail, et quand on rentre dans le détail, de toute évidence, non, Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen n'ont pas la même culture économique, le même rapport au truc, c'est pas. Non, non. Je veux dire, si tu me dis que Marine Le Pen veut augmenter les bas salaires donc, et Jean-Luc Mélenchon aussi, donc elle se rapproche de Mélenchon, non, c'est trop léger pour pouvoir mettre un signe égal ou même un signe de ressemblance entre les deux. Il faut aller un peu plus loin, il faut rentrer un petit peu dans le détail, même dans la manière de faire, parce qu'il n'y a pas la même méthode d'augmentation des bas salaires, tiens, pour ne parler que des bas salaires ou des petites pensions, etc. Surtout qu'elle veut pas. Alors, elle a voté contre la proposition de Jean-Luc Mélenchon, mais elle avait une contre-proposition, de réduction des charges pour augmenter le salaire net. Qui, pour le coup, est plutôt un truc historique de la droite. Ils sont tous deux populistes, mais pas de la même manière. Ouais. Oui, ils relèvent tous les deux de formes tellement différentes de ce qu'on appelle le populisme que ça devient un peu difficile d'utiliser le même mot pour désigner les deux stratégies, quoi. Puis ils sont pas dans les mêmes dynamiques, ils sont pas dans le même contexte, donc ça devient compliqué. Là aussi, c'est faire un sac un peu trop grand que de mettre tous les gens dans un même grand populisme. C'est une légende où l'économie et le RN, ça fait deux. C'est pas tant que ça fait deux que c'est pas leur thème principal de campagne et de prédilection. Ils sont plutôt sur les thèmes d'immigration, sécurité, identité, d'une part, et autorité. L'économie vient plutôt historiquement au second plan. Et d'autre part, ils ont évolué sur leur position économique au fur et à mesure du temps. Ils ont été contre l'euro avant de revenir sur cette idée, ils ont été libéraux dans les années 80 avant de devenir plutôt interventionnistes, voire quasi semi-étatistes plus récemment. Le RN a pas mal louvoyé d'un point de vue économique, et encore une fois, comme c'est pas le cœur de leur clé de lecture du monde, le primat de l'économie, c'est un truc marxiste, hein, donc c'est normal que la question économique soit plutôt au cœur de la pensée des gens issus du marxisme que de l'extrême droite. Eux, ils sont sur une clé de lecture davantage identitaire, ethnoculturelle, on va dire, du monde. Pour eux, si tu veux, les enjeux économiques arrivent au second plan. Historiquement, je précise bien historiquement, parce que ça a évolué. En 2022, Marine Le Pen a décidé d'abandonner petit à petit la thématique immigration-identité pour se diriger davantage sur soutien au pouvoir d'achat. qui lui a permis de se maintenir au second tour, puisqu'elle a compris une évolution de son propre électorat. Même les électeurs du RN ne mettent plus la question de l'islam et de l'immigration en top des priorités. C'est la question du pouvoir d'achat qui arrive en numéro 1. Mais les immigrés restent une progression très importante au RN. Oui, bien sûr, non, 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 ils n'abandonnent pas les fondamentaux, mais en termes de stratégie, de tactique, au cours de la campagne 2022, ça a été celle qui a été appliquée par Marine Le Pen. Donc voilà. Alors, le Figaro Magazine, on va voir un petit peu la table des matières pour voir ce qu'ils ont écrit sur le congrès LR, ce qui est surtout le truc qui m'intéresse le plus. Ah merde, pourquoi il a été découpé? Merde. Hop, hop, hop. Alors, éditorial de Guillaume Roquette, vous et nous, contributeurs et forums, Club Figaro, actualité du Figaro, arrêt sur image, entrée libre, en vue, polémique, la clé pour comprendre, mise à jour, initiative et technologie, le rendez-vous. À quoi servent les riches de Fabrice d'Almeida? Ça c'est des chroniques. La chronique de François d'Orcival. Alors, le magazine, ça commence à partir de la page 50. Y a-t-il quelqu'un pour sauver la droite? Hidalgo, la faillite annoncée. Ça, c'est une enquête sur la mairie de Paris. On s'en fout. Enfin, on s'en fout dans le contexte de ce stream où moi, ce qui m'intéresse, c'est comment ils analysent le congrès de la droite. Avec le reclus du Mont Athos, je m'en fous. Louis XV, le mieux aimé, je m'en fous. Ouais, donc, il y a vraiment que 15 pages qui m'intéressent. Ok, d'accord. Ok. Et eh ben on va regarder à partir de la page 50. Alors est-ce qu'il compte les pubs dans les pages? 16, 32, 44, 46, 48, 50. Y a-t-il quelqu'un pour sauver la droite? Voilà le grand dossier du Figaro Magazine du week-end dernier. Je suis choqué qu'il ne parle pas de Linard. Bah, David Linard, il est président de l'Association des maires de France et il n'est pas candidat à la présidence de LR. Et puis il a déjà l'occasion de s'exprimer. Il a donné une interview au JDD, je crois, récemment. Au JDD ou à l'Express, David Linard, je ne sais pas. Mais David Linard, très intéressant à suivre. Hein. Ça, c'est un bonhomme qui m'intéresse beaucoup. Il représente je pense, un des espoirs de la droite dans les prochaines années. C'est un mec à suivre, David Linard. Question de mon inculture, pourquoi la droite a choisi le bleu? Il y a plein de raisons historiques sur le choix des couleurs en politique. Le rouge de la révolution, le rouge des révolutionnaires pour la gauche, du sang des révolutionnaires pour la gauche, et le bleu de la, de, le bleu du roi, le bleu de la légitimité. Voilà. Peut-on parler d'union de la droite? On va en parler, l'union des droites. Qui a un vieux sujet, hein, l'union des droites, pour le coup, sur le sujet du cordon sanitaire, etc. Alors, je regarde juste quelle taille fait le papelard. Il y a une tribune d'Éric Zemmour. Ah putain, il est long. Non, il est long. Non, c'est bon, ça fait 4 pages. Leur dossier. Alors, on se lance? On fait une lecture commentée du Figaro Magazine? C'est le blanc pour la monarchie. C'est le blanc pour la monarchie, oui, au moment de. Pour les Bourbons, mais pour les. Pour les Orléanais, non? Je sais pas. Blanc et bleu, pré-révolution. D'accord. Orléans. Ouais. Je sais pas. Écoutez, je sais pas. C'est une bonne question. Pourquoi le bleu, la droite, je ne sais pas. Je ne saurais vous dire. Le sang bleu, tu crois? Ah, le sang bleu de l'époque de l'Ancien Régime. C'est possible. Bleu et blanc, le blason français du Moyen Âge, c'était il y a trois lys sur fond bleu. Ouais, mais les lys étaient couleur or, non? Bleu, c'était la droite libérale à l'époque, donc les Orléanais, ouais. Bonne question, je ne sais pas. Tiens, c'est un bon sujet, ça. Pour le coup, le rouge, c'est assez identifié, mais le bleu. Bon, on verra. L'élection à la présidence des Républicains aura lieu les 3 et 4 décembre, premier tour, et les 10 et 11 décembre pour le second tour. Mais aucun des trois prétendants, Éric Ciotti, Bruno Retailleau ou Aurélien Pradié, n'a exprimé la volonté d'être candidat à la présidentielle de 2027. La question de l'incarnation n'est donc toujours pas réglée à droite. Renaître ou disparaître? Comme toujours, Brice Hortefeux sait trouver les mots qui résument parfaitement la situation politique des Républicains. À quelques jours du vote des militants pour désigner leur nouveau président, l'équation politique n'a peut-être jamais été aussi simple pour le mouvement principal de la droite. Arrivera-t-il d'ici l'élection présidentielle de 2027 à retrouver la confiance des électeurs en portant un projet et en l'incarnant? Intéressant. Au risque, sinon, de ne plus exister. La hantise chez nombre de responsables LR se réduit à quatre lettres. CNIP. CNIP. Du nom de ce parti politique qui a connu ses heures de gloire sous la 4ème République avec un président de la République, René Coty à l'époque, et un président du Conseil, Antoine Pinay, et jusqu'à 132 députés de 1958 à 1962. Avant de vivre une descente aux enfers et de ne plus compter qu'un seul élu à l'Assemblée nationale en 2012. Puis aucun depuis le 2017. Est-ce le destin qui attend LR? C'est vrai que ça fait peur. Hein. Le CNIP, effectivement, grand parti de droite sous la quatrième, qui s'est effondré. Pour continuer à peser dans la vie politique française, chacun a sa stratégie. Les uns pensent que c'est en lorgnant vers Éric Zemmour, voire Marine Le Pen, en réalisant l'union des droites. Les autres estiment qu'il faut revenir à l'alliance de la droite et du centre, seule construction qui a permis aux candidats d'accéder à l'Élysée, c'est vrai. Les trois prétendants à la présidence des Républicains préfèrent une troisième voie, celle de l'indépendance. Dans les textes, ouais. À la pratique, je ne suis pas sûr à voir. À voir. Bon, en tout cas, c'est sûr qu'ils plaident tous les trois pour l'indépendance parce que tu ne fais pas campagne auprès des électeurs d'un parti, auprès des adhérents d'un parti en leur disant ma stratégie, c'est de m'allier. Ça, les adhérents détestent ça. Donc, si tu veux draguer les adhérents pour qu'ils votent pour toi, tu leur dis pas votez pour moi, je ferai une alliance. Tu dis votez pour moi, je relèverai le drapeau de notre parti et nous serons indépendants et nous proposerons une alternative parce que nous seuls sommes capables de le faire, etc. Parti radical égale parti le plus inutile jamais créé. Eh bah, ben, essaye de créer un parti politique et essaye d'arriver à la cheville de ce qu'a fait le parti radical. Juste à la cheville. Je t'offre une bouteille de champagne. L'indépendance. Éric Ciotti, Aurélien Pradié et Bruno Retailleau sont tous d'accord sur ce point. Le renouveau des LR ne peut pas passer par une soumission à Éric Zemmour ou à Emmanuel Macron. Ce dernier a été d'ailleurs la cible principale de la campagne des trois prétendants. Emmanuel Macron, donc. C'est marrant qu'il parle d'Éric Zemmour en disant que les Républicains devraient se mettre sous Éric Zemmour, mais il parle pas de Marine Le Pen. Dans cette intro, il parle pas du tout de Marine Le Pen. Et quand même, enfin, je veux bien qu'Éric Zemmour vienne du Figaro, mais enfin bon, là, faut pas pousser. En termes de score et en termes de qui a du poids à droite en ce moment, plus Marine Le Pen qu'Éric Zemmour. Enfin, je veux dire, elle a un groupe à l'Assemblée, lui, il a aucun député, même lui, il a pas été foutu d'être élu député. Et Marine Le Pen a du poids à l'Assemblée, LR a du poids dans les territoires. Éric Zemmour n'a ni l'un ni l'autre. Bon, j'ai envie de te dire. Elle refuse toute alliance. Oui, ça aide pas. Enfin, tu me diras, Emmanuel Macron n'a pas encore parlé d'alliance non plus, hein. Mais t'as raison. C'est pour moi une des raisons du fait qu'il. Bon, on verra s'ils en parlent plus loin dans l'article, mais là, en termes d'intro, t'es en mode. Je sais pas, il y a un éléphant dans la pièce, là, les gars, on fait semblant de pas en parler. Il n'est pas question de passer quelque pacte que ce soit avec Emmanuel Macron, disait Aurélien Pradié au lendemain de sa réélection à l'Assemblée nationale dans Le Parisien. Son projet de société n'est pas le mien. Dans ses réunions publiques, Éric Ciotti moque celui que certains avaient qualifié de Mozart de la finance. Deux points, je cite Éric Ciotti, il lui manque quelques gammes, ironise le député des Alpes-Maritimes, rappelant le niveau de la dette et celui du déficit public aggravé depuis 2017. Oui, le Covid. Emmanuel Macron n'est pas de droite, aime à rappeler Bruno Retailleau. Quand un président de la République est capable de nommer ministre de l'Éducation nationale quelqu'un comme M. Pap Ndiaye, un wokiste de salon, il n'est pas de droite. Avoir supprimé une partie de l'ISF ne fait pas de lui un homme de droite. Ça, c'est ce que disait Bruno Retailleau. Si ça vous intéresse, je vous invite à regarder l'interview que j'avais faite de Bruno Retailleau dans l'émission Public Sénat, Sénat Stream. Bruno Retailleau avait longuement développé à mon micro l'identité de la droite et pourquoi, selon lui, Emmanuel Macron n'appartient pas à l'histoire de la droite et qu'il est un épiphénomène, un accident de l'histoire qui ne représente absolument pas la droite ligne, c'est le cas de le dire, de ce que c'est que la pensée, l'histoire et l'héritage de la droite républicaine. C'est crypto-raciste, ça, comme phrase. Non, 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 non. Bah, l'accusation de wokisme autour de Pap Ndiaye, elle n'est pas spécialement liée à sa couleur de peau, elle est liée à ses écrits et à son travail sur l'histoire de l'immigration. Pap Ndiaye est un historien de l'immigration, du multiculturalisme, on va le dire comme ça. Et donc, il est vu par une partie de la droite identitaire comme effectivement le tenant d'un affaiblissement de l'identité française. De salon. Non, de salon, ça fait référence. Ah oui, non, non, non. Non, je vois ce que tu veux dire, le N de salon. Non. Non, 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 ça fait référence au fait que c'est un universitaire, Pap Ndiaye. C'est pas un militant dans la rue, c'est un universitaire qui a écrit des bouquins, qui faisait des colloques. Vivre ensemble égale wokisme, en gros. Oui, c'est ça. C'est ça. Jacques Chirac était un gros wok, de leur point de vue à eux. Wok, c'est une insulte. Dans la bouche de l'électorat de droite et des responsables politiques de la droite, oui, woke, c'est péjoratif. Ah oui, non, ça faut bien comprendre, hein, quand il utilise des mots comme ça, faut comprendre comment il est utilisé, en péjoratif ou... Et de LREM, ouais, de certains chez LREM, ouais. Ouais, de la ligne Blanquer, etc., ouais. Tous refusent la main tendue par Nicolas Sarkozy à Emmanuel Macron dans le JDD du 23 octobre dernier. Oui, rappelez-vous, Nicolas Sarkozy dans le JDD, on l'avait pas lu en stream, mais il avait publié une tribune ou une interview, je sais plus, je crois que c'était une interview, qui proposait une alliance LR-Renaissance. Et effectivement, les trois candidats LR ont rejeté cette hypothèse. Ce jour-là, donc le 23 octobre dernier, l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, réitère sa stratégie, développée avant la présidentielle, d'accord avec l'actuel chef de l'État, enjoignant toutefois ce dernier à franchir le Rubicon de façon plus franche. Une manière de faire porter à Emmanuel Macron la responsabilité de l'ouverture. Pour le moment, le président de la République s'est contenté de répondre, lors de son intervention dans l'émission L'Événement sur France 2, qu'il était favorable à des alliances au Parlement sur des textes proposés par le gouvernement. Dans l'esprit de Nicolas Sarkozy, c'est évidemment insuffisant. Pour lui, Emmanuel Macron est finalement autant en difficulté que la droite. Son second quinquennat peut mal se terminer politiquement. Un accord avec les LR pourrait lui permettre une fin de quinquennat apaisée sur le plan institutionnel. Mais cet accord aurait une condition, installer à Matignon un chef des Républicains. Le chef des Républicains. Ah ouais, mais non, tu peux pas. Je suis fait une parenthèse, mais c'est marrant. Je viens de percuter en termes de calendrier, c'est le hasard. Mais la niche parlementaire des Républicains aura lieu ce jeudi, soit 3 jours avant le congrès des Républicains. Du coup, attends, je suis en train de réfléchir à 2000 km/h là pour savoir est-ce que le gouvernement, est-ce qu'Emmanuel Macron va essayer d'en jouer? Je réfléchis, hein. Quel serait le signal envoyé aux électeurs les Républicains? Si la majorité présidentielle votait une de leurs propositions de loi. Je réfléchis. Est-ce qu'il leur dirait un truc du genre ma main est ouverte, ma main est tendue, regardez, on peut travailler ensemble? Ou est-ce qu'à l'inverse, ça renforcerait les Républicains? Ça tombe mal. Justement, je suis en train de réfléchir, ça dépend pour qui. C'est surtout un problème pour Retailleau. Ah non, Retailleau, c'est peut-être le seul pour lequel c'est pas un problème, parce que Retailleau est sénateur et pas député, donc Retailleau n'a pas à se prononcer jeudi prochain sur les propositions de loi. Je réfléchis. Tiens, je viens de percuter. Il me faudra une nuit pour y réfléchir et je reviens vers vous demain. Je vous tiens au courant demain, mais jeudi ça va être intéressant à suivre. On gardera ça en tête jeudi quand on écoutera les échanges entre les membres du gouvernement et de la majorité et les députés des Républicains. Il faudra garder en tête que dans 3 jours, les adhérents des Républicains votent. Donc voilà, donc la stratégie Nicolas Sarkozy, Emmanuel Macron fait une alliance avec les Républicains en nommant un Premier ministre issu des rangs des Républicains pour se forger, être sûr de se forger des votes et du coup une majorité. Séduisante sur le papier, la stratégie est plus compliquée à mettre en œuvre. D'une part, Emmanuel Macron n'a jamais passé de tels accords avec des partis politiques, c'est vrai, privilégiant les contacts avec des personnalités, c'est vrai. La politique de débauchage, comme on l'a appelé, enfin comme l'appellent méchamment les responsables, les Républicains qui apprécient peu cette manière qu'a Emmanuel Macron de leur choper des talents chez eux, Bruno Le Maire, Gérald Darmanin, Jean Castex, Édouard Philippe, etc. Ils parlent de débauchage et non pas d'alliance stratégique. Ça me fait penser à quoi? Et puis par ailleurs, Emmanuel Macron, il a quand même fait un accord de coalition avec le MoDem, qui est un centre indépendant, qui par définition n'aime pas les alliances avec la droite. Faut pas croire que tout le monde au sein de Renaissance est favorable à une union avec la droite. Il y en a même pas mal qui sont en défaveur, alors est-ce qu'ils seront prêts à quitter? Mais entre le MoDem et l'aile gauche de la majorité, comme on l'appelle. À voir. Hop, hop, hop. D'autre part, aucun des prétendants à la présidence de LR ne soutient ce scénario. Les proches de Nicolas Sarkozy estiment qu'Éric Ciotti serait plus ouvert que Bruno Retailleau. Ce dernier a poussé très loin la rupture avec l'ancien patron du mouvement en proclamant sur Europe 1 « Si Nicolas Sarkozy souhaite quitter LR, qu'il le fasse, je ne le retiendrai pas. Je comprends que tous ceux qui ont mis beaucoup d'énergie à la réélection de M. Macron ne souhaitent pas me voir accéder à la présidence de LR parce qu'ils savent que je ne transigerai jamais là-dessus. Jamais. Je veux une droite qui soit vraiment la de droite. Pas une droite à mi-temps, pas une moitié de droite, la droite complète. » Donc ça, c'est Bruno Retailleau qui, d'après les observateurs, est probablement le plus grand adversaire de l'idée d'une alliance avec Emmanuel Macron. Et Éric Ciotti serait plus favorable que Bruno Retailleau? Je suis pas sûr, hein. Intéressant. Dans ses réunions publiques, Aurélien Pradié est plus diplomate, même si sur le fond, il est aussi dur que Bruno Retailleau. Il y a un point d'équilibre à trouver. Il ne faut pas donner l'impression qu'on crache dans la soupe, estime le député du Lot, qui sait que la plupart des militants parmi les anciens ont participé aux campagnes de Nicolas Sarkozy. Ouais, c'est pas bête de la part d'Aurélien Pradié. Ouais. Les adhérents qui vont voter dimanche là pour au Congrès des Républicains, c'est quand même des gens qui, pour beaucoup, ont fait les campagnes de Sarkozy, donc il faut pas insulter Sarko, c'est un mauvais signe. Ok. Alors qu'il affirme qu'il faut tourner la page, il explique que lui aussi a été un fidèle militant de l'UMP sous Nicolas Sarkozy. Éric Ciotti est plus discret sur l'ancien président de la République. Il n'a pas oublié les mauvaises manières de la campagne des législatives quand Nicolas Sarkozy est venu à Nice soutenir une candidature de Christian Estrosi contre un candidat LR. Enfin bon, il y a un moment, Éric Ciotti, lui aussi, il a été avec Estrosi pendant des années. Puis Estrosi a toujours été très proche de Nicolas Sarkozy, on va pas lui retirer ça. Mais il se garde bien de rompre publiquement avec lui et bénéficie du soutien de Nadine Morano et Brice Hortefeux, deux fidèles de l'ancien président, effectivement proche d'Éric Ciotti. Bruno Retailleau veut croire que sa rupture avec Nicolas Sarkozy a marqué un premier tournant en sa faveur dans cette campagne. Il m'a rendu service. Le second tournant aurait eu lieu le jeudi 3 novembre. Un député du Rassemblement national, Grégoire de Fournasse, a mis l'Assemblée nationale en ébullition pour avoir interpellé un député de la France insoumise, Carlos Martins-Bilongo, qui évoquait le sort des migrants convoyés par l'Ocean Viking en hurlant qu'il retourne en Afrique. Visait-il le député, les migrants, le navire de l'ONG SOS Méditerranée? Dans le doute et malgré ses dénégations, les accusations de racisme fusent de la part des élus de gauche et de la majorité. Dans ce contexte, Éric Ciotti publie un message sur Twitter. Je cite: Je condamne avec fermeté les propos d'une extrême gravité tenus aujourd'hui par un député au sein de l'hémicycle de notre Assemblée. Scandaleux de la part d'un représentant de la République. Attends, j'essaie de comprendre ce qu'essaie de dire le journaliste là. Ah, d'accord. D'accord, ok, donc je continue à lire. Donc ça, c'est ce qu'a dit Eric Ciotti au moment de cette histoire. De son côté, Bruno Retailleau publie un billet sur son site intitulé « La confrontation d'idées n'interdit pas l'honnêteté ». Si le sénateur de Vendée explique que pour lui, l'excès est toujours une faiblesse et l'intervention de ce député RN était pour le moins inopportune, il ajoute clairement que chacun a le droit de défendre la politique migratoire qu'il juge bonne pour la France, mais personne ne peut considérer comme raciste le fait de réclamer le retour des clandestins. D'accord. Donc en gros, Bruno Retailleau, il aurait marqué des points en se distinguant d'Éric Ciotti au moment où Éric Ciotti dit bah, cette saillie. Racistes sont inacceptables d'un élu de la République. Bruno Retailleau, lui, était plus mesuré en disant on doit pouvoir exprimer, même de manière parfois un peu rude, sa vision de la politique migratoire. Encore une fois, Bruno Retailleau, il est sénateur, donc c'est facile pour lui de, de faire preuve de prise de distance avec les propos des députés. D'autant que Bruno Retailleau, pour lui avoir demandé, il m'a déjà dit qu'il était le premier à valoriser le Sénat comme étant justement une chambre plus tempérée. Ciotti et Macron-Philippe compatibles. Ah ouais, tu trouves? Non, mais c'est intéressant, c'est intéressant. Non, non, c'est qu'il y a des subtilités auxquelles j'avais pas accès jusque-là. Mais why not, why not? Mais je continue à lire, du coup, ça m'intéresse. Ces prises de position auront-elles été décisives dans la course à la présidence? On veut bien évidemment le croire chez Bruno Retailleau. C'est un autre caillou blanc, estime le président du groupe LR au Sénat, qui enfonce le clou. C'est Bruno Retailleau, vous aurez compris. Si 10 millions d'électeurs nous ont quittés, c'est parce que nous avons trop cédé aux injonctions de la gauche. Lesquels? Et en quoi LR a cédé? Éric Ciotti reconnaît que son message sur Twitter pourrait lui coûter quelques voix. Il a lu les nombreux commentaires peu amènes. Monsieur Ciotti, pas vous. Vous devriez avoir honte de relayer les mensonges de la NUPES, etc. Quelques tweets que Éric Ciotti a reçus suite à sa condamnation du racisme. Mariage pour tous? Ouais, peut-être. La gauche, Macron. Oui, mais je vois pas en quoi les Républicains ont cédé à Macron. Justement, ceux qui restent chez les Républicains, c'est ceux qui n'ont pas cédé. Donc, ils comptent les gens qui auraient quitté LR pour RN et pas LR pour LREM? Il n'y en a pas eu beaucoup hein, qui sont partis d'LR pour aller rejoindre le RN. Je sais pas. Bref, Éric Ciotti, il n'est pas dupe. Il sait que les soutiens d'Éric Zemmour comme ceux de Marine Le Pen se sont lâchés. Il pense qu'il ne pouvait pas faire autrement ce soir-là. Il n'était pas en séance, pris entre une réunion publique en région parisienne et la commission des lois qui étudiait le projet de loi d'organisation et de programmation du ministère de l'Intérieur, la loi LOPMI. Deux de ces amendements ont d'ailleurs été acceptés, dont celui de porter le nombre de places de centres de rétention administrative à 3 000. Trop souvent associé au RN, Éric Ciotti ne pouvait pas donner l'impression de coller systématiquement à leurs propos. Voulant se démarquer, il a dérouté certains de ceux qui étaient prêts à voter pour lui. Ok, d'accord. Non, mais c'est intéressant. C'est-à-dire que la thèse du journaliste, dont j'ai pas cité le nom, voilà, c'est Karl Meus, Karl Meus, je sais pas comment ça se prononce. La thèse, c'est que Éric Ciotti pouvait apparaître comme celui qui était le plus ancré à droite, mais plusieurs épisodes au cours du dernier mois ont pu dérouter certains adhérents Les Républicains qui ont pu trouver chez Bruno Retailleau la radicalité qu'ils aimaient bien chez Éric Ciotti. Ça se prononce Meus? Ok, pardon. Il cède à l'Assemblée sauf Retailleau. Mais je vois pas en quoi il cède, hein. Vraiment. Certains, oui. Mais de toute façon, le groupe à l'Assemblée est divisé, donc bon. En gros, Éric Ciotti va peut-être avoir les votes des adhérents trop de droite. Va pas avoir. Oui, c'est ça, oui, c'est ça. Oui, Éric Ciotti, il va peut-être lui manquer quelques voix issues des adhérents les plus autonomistes, indépendantistes et farouchement antimacronistes, et qui pourront bénéficier à Retailleau. Ok. Ok. Ce sont peut-être les deux problèmes du député des Alpes-Maritimes dans cette campagne. Parti comme le candidat le plus à droite, et donc a priori le plus en phase avec les militants restés chez LR, mais risquant de provoquer une scission chez les élus, il a été obligé à une certaine prudence et se retrouve doublé sur ce terrain par ses deux concurrents. Car Aurélien Pradier n'a pas fait dans la dentelle non plus, se disant favorable à l'interdiction du voile, peut-être même dans l'espace public. Je vais finir par passer pour un gauchiste, riait jaune Éric Ciotti devant ce positionnement des deux autres compétiteurs. Ah, ok, d'accord. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu une course à l'échalote, à la radicalité, chez Aurélien Pradier et Bruno Retailleau. Et Éric Ciotti a ce petit jeu-là. Lui qui pouvait paraître comme le plus à droite, en fait, il s'est fait doubler par sa droite. Il est en mode, ah ben merde, je passe pour le mec modéré. Hey. La fameuse courge. Pécresse soutient qui? Bonne question. Je sais, bonne question. Enfin, favori du scrutin depuis le début, Éric Ciotti ne prend pas pour autant de risques. Ne prend pas autant de risques que lors du congrès pour désigner le candidat à la présidentielle en 2021. Cette fois-ci, c'est Aurélien Pradier qui met fin au totem de la droite sur le report de l'âge légal de départ à la retraite. Oui, effectivement, c'est Pradier qui a pris position contre le report de l'âge légal. Non, non, mais c'est ce qu'on a dit quand on avait discuté ensemble, quand on avait regardé le débat entre les candidats pour la présidence des Républicains. Aurélien Pradier, je pense qu'il a marqué des points parce qu'il a réussi à faire mouche avec des propositions assez spectaculaires, l'interdiction du voile dans l'espace public, l'uniforme à l'école et à l'université, dans le genre course à l'échalote de trucs inapplicables, ça a pu marquer les esprits de quelques électeurs, de quelques adhérents LR, ouais. Donc c'est vrai qu'Éric Ciotti il se retrouve gauchisé par Retailleau et Aurélien Pradier dans leur course à l'échalote. Eh bé. À quel point c'est important le congrès LR, vu que celui qui gagnera ne sera pas forcément le candidat 2027 ni la tête de liste des européennes en 2024. Ça reste important parce que tactiquement et stratégiquement, ça reste la personne qui va mettre en musique la campagne d'ici là, le positionnement politique et qui va être la rampe de lancement du candidat en 2027 et de la liste européenne en 2024. Rappelez-vous le fiasco de la liste européenne de François-Xavier Bellamy, c'est en partie ce qui avait coûté son poste à Laurent Wauquiez. Donc, président des Républicains, ça reste un poste extrêmement important. Tout ceci réduit d'autant plus les chances d'alliance avec LREM. Oui et non, parce que ce ne sera pas la première fois qu'on aura entendu des candidats à une élection interne à un parti jouer au jeu du plus radical. Et finalement, mettre de l'eau dans son vin à l'exercice, tu vois. Donc, je veux dire, ça n'empêche rien. Ça n'empêche rien. C'est le moment de ces réunions publiques où le député du Lot est le plus applaudi, donc Aurélien Pradier. Avec la suppression des primaires pour désigner le candidat à la présidentielle. Je cite, je propose de parler de la durée de cotisation. Ça me semble plus juste et plus honnête. Je ne me vois pas dire à mon frère boulanger qu'on va travailler jusqu'au même âge. Ce discours-là, la droite ne l'a pas tenu depuis près de 10 ans. Et ça fait près de 10 ans que la droite s'est coupée de l'électorat populaire. Éric Ciotti propose en effet à ses électeurs une solution mixte entre un départ à 65 ans ou après 45 années de cotisation. Chacun choisira, nous devons être le parti de la réforme. De son côté, Bruno Retailleau, donc là j'ai cité, excusez-moi. De son côté, Bruno Retailleau, fidèle à la proposition récurrente du Sénat, votée encore cette année dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, est favorable à un report de l'âge légal de départ à 64 ans et un allongement des durées de cotisation à 43 annuités. Curieusement, Emmanuel Macron a laissé entendre que sa réforme des retraites pourrait reprendre ce système. Et pourquoi curieusement au contraire? Au contraire, Emmanuel Macron, il est pas débile. Il sait très très bien que comme il a besoin des voix des Républicains, s'il reprend la proposition du Sénat, ça va être difficile pour les députés LR de voter contre. Ça, au contraire, je trouve ça assez smart de la part de Macron de dire, bah, quitte à les faire chier, autant reprendre leur proposition au Sénat. Bon courage à vous pour voter contre. Second degré? Bah non. Non, 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 non. Enfin, là, je l'ai sous les yeux. Curieusement, est ironique. Bah, j'ai pas l'impression. Après, il l'est peut-être, mais je lis Le Figaro Magazine hein, pour ceux qui débarquent et son dossier d'analyse du congrès de la droite. Enfin, du congrès. Oui, c'est ça. de la situation stratégique de la droite. C'est à partir du 4 décembre et du 11 décembre que les grandes manœuvres politiques commenceront. C'est ce que je vous disais, Emmanuel Macron attend le congrès des Républicains pour commencer les manœuvres et voir si on se dirige vers une dissolution ou s'il y a un accord qui est trouvable avec les députés LR. Bruno Le Maire et Gérald Darmanin, les ministres de l'économie et de l'intérieur, issus des Républicains, sont en embuscade pour tenter de récupérer ceux qui voudraient se rapprocher de la majorité. Tout comme Édouard Philippe dans la perspective de la présidentielle de 2027. Éric Ciotti, s'il est élu, a fait savoir qu'il soutiendrait Laurent Wauquiez s'il décidait d'être candidat à la présidentielle. Les deux autres prétendants ne se sont pas prononcés aussi clairement. Après tout, pourquoi pas eux? Ou d'autres? Xavier Bertrand n'a pas renoncé à ses ambitions présidentielles. Ni Valérie Pécresse, qui rêverait, selon ceux qui l'ont croisé, de laver l'affront de 2022. Ah, donc Pécresse, elle veut redorer son blason, et pourquoi pas une candidature en 2027 pour faire mieux et montrer qu'elle est pas dead. Intéressant. Difficile d'imaginer que le scrutin de décembre règle le problème des divisions au sein des LR, et plus globalement de la droite. Il ouvre un nouveau chapitre de cette famille politique qui, pour la première fois depuis longtemps, aura à sa tête un dirigeant qui n'a pas été ministre. Ça peut devenir un problème, cette absence de culture de gouvernement, anticipe un responsable LR.
Ouais, enfin bon.
Pas non plus... Inquiet également des risques de départ. Ces dirigeants devraient méditer cette phrase du poète René Char, « Sans tribu, pas d'issue ».
Voilà, fin de ce dossier d'enquête. Enfin non, c'est pas la fin du dossier, parce qu'il y a encore... Il y a encore d'autres sujets. Je regarde. Il y a une tribune de Mathieu Bock-Côté. Je propose qu'on s'en foute un peu. Une enquête sur Hidalgo, pareil, c'est pas le sujet de ce soir. En tout cas, le Figaro, ils ont repris la campagne sur Hidalgo, la mairie de Paris. Puis du coup, là, ils sont alliés objectifs de fait de la majorité qui, elle aussi, commence à lorgner. Tac, tac, tac. Xavier Bertrand a dit qu'il arrêtait la politique nationale après la primaire. Il aurait même pas tenu un an. Bah moi, c'est le souvenir que j'en ai aussi, c'est que Xavier Bertrand avait dit qu'il s'en retournait dans ses terres des Hauts-de-France et qu'il abandonnait toute ambition nationale. Mais il faut jamais dire jamais en politique, donc Xavier Bertrand, sans doute, pourrait être amené à se diriger vers un retour. Retailleau espère une défaillance de Le Pen. Ciotti est prêt à se vendre à Philippe. Donc Ciotti serait le plus à même de se diriger vers un accord avec Emmanuel Macron. Intéressant. On pourrait avoir du coup un Olivier Marleix, chef de gouvernement d'une coalition Renaissance LR. Je sais pas. Comme Estrosi, son mentor. Oui, c'est ça, comme Estrosi. Enfin, en gros, il rejoindrait Nicolas Sarkozy, quoi. C'est marrant parce que précédemment, il disait Zemmour plutôt que Macron. Bah, c'est ça. Le Pen, même. C'est-à-dire qu'Éric Ciotti a... Non, Éric Ciotti, il a appelé à voter qui au second tour? Je me souviens qu'il disait « Je voterai Zemmour plutôt que Macron » au second tour. Mais je crois qu'il a appelé à voter Macron. Hein. Ouais, il a rien dit, c'est ça. Ouais, ni l'un ni l'autre. Il a pas appelé à voter, il a rien dit. Il a rien dit, ouais, c'est ça. Ok, d'accord. D'accord. Donc on peut pas lui reprocher d'avoir appelé à voter Marine Le Pen, ce qui pourrait empêcher de trouver un accord avec Emmanuel Macron. Et on ne peut pas non plus lui reprocher d'être trop macroniste parce qu'il n'a pas non plus appelé à voter Macron pour faire barrage à Marine Le Pen. Mais on peut lui reprocher de ne pas avoir fait blocage à l'extrême droite. Ce qui, dans le cadre du positionnement contextuel d'Éric Ciotti, n'est pas un défaut. Ouais. Déjà en 2017, il n'avait pas appelé à faire barrage au RN. Oui, ça c'est vrai, je m'en souviens. Il n'avait pas non plus à appeler à voter Marine Le Pen. Il y a une tribune d'Éric Zemmour sur l'union des droites et il y a une tribune de Renaud Muselier. Donc c'est intéressant, il y a deux tribunes différentes, une qui appelle les Républicains à se radicaliser vers la droite et à faire alliance avec lui, Éric Zemmour, et l'autre qui appelle les Républicains à aller vers Emmanuel Macron. Donc c'est Renaud Muselier, vous savez, c'est le président de la région PACA qui a rejoint la majorité, enfin qui a quitté les Républicains pour se rapprocher d'Emmanuel Macron. Éric Zemmour, donc l'union des droites est la seule issue. L'ancien candidat à l'élection présidentielle est convaincu que LR n'a pas d'avenir hors d'un rapprochement avec son parti Reconquête et le RN. Voici ses arguments. Alors Éric Zemmour, comment il explique ça? Donc l'union des droites, hein, je vous rappelle que l'union des droites, c'est un vieux projet qui pendant longtemps est resté cornerisé dans les salons, dans les colonnes du Figaro et dans les salons de réflexion de la droite, qui consistait à imaginer un scénario qui rapprocherait la droite gaulliste et l'extrême droite. L'union des droites, donc, c'est cette idée, c'est le Club de l'Horloge notamment qui a longtemps promu ce truc-là, de couper le cordon sanitaire et de faire se re-rencontrer à nouveau les deux grands peuples de la droite française, ceux qui sont issus de la résistance et ceux qui sont issus de la collaboration. En dépassant les clivages et en arguant notamment de la contemporanéité des problématiques, en disant que les vieilles blessures d'antan ne doivent pas nous empêcher de faire face aux défis de notre siècle, notamment l'immigration, l'identité, la mondialisation, etc. Voilà. Comme en Italie. En gros, ouais, c'est le scénario à l'italienne de Meloni. Alors après, je connais mal l'histoire contemporaine italienne, mais est-ce que le parti de Silvio Berlusconi est l'héritier de l'antifascisme, de la résistance italienne, je ne sais pas. Meloni est clairement dans l'histoire, l'héritière de ce qu'on appelle le néofascisme. Mais est-ce que... Non, Berlusconi, je ne connais pas l'histoire de la droite italienne, mais Berlusconi, il n'y a pas une figure à la De Gaulle dont le parti de... C'est Forza Italia, le parti de Berlusconi? Alors que nous, en France... Alors que nous, en France, les Républicains sont le parti héritier du gaullisme. Et donc, qui dit héritier du gaullisme, bah, dit héritier de l'appel du 18 juin, dit héritier de Jean Moulin, de la Résistance, et donc anti-Le Pen. Le Pen étant, lui, l'héritier de l'Algérie française, de l'OAS, des ligues fascistes, de ce qui restait de la collaboration après la Seconde Guerre mondiale. Donc, c'est vraiment les deux droites totalement irréconciliables. Et bon, voilà. Donc l'union des droites, c'était l'idée de dépasser ces clivages-là et réunir la droite, ce qu'on appelle la droite républicaine, donc héritière du gaullisme, et la droite, l'extrême droite, héritière de la collaboration, au sein d'un même mouvement. Sauf que LR a déjà fait des accords avec le FN. Non, il y a déjà eu des trucs au niveau local qui ont pu se passer, notamment des non-retraits de candidature, etc. Donc c'est pour ça que le cordon sanitaire s'est quand même vachement affaibli ces dernières années. Mais pendant très longtemps, les Républicains, enfin avant ça s'appelait l'UMP et encore avant ça s'appelait le RPR, c'était des anti-Le Pen, tellement anti-Le Pen qu'ils étaient prêts à faire, enfin ils faisaient élire des communistes plutôt que des nationalistes. MLP se revendique héritière du gaullisme. Oui, c'est ça. Et c'est aussi la nouveauté C'est aussi la nouveauté de Marine Le Pen dans sa stratégie de dédiabolisation, c'est que le Front National, le Rassemblement National, a fait tout un chemin pour se dédiaboliser et se rapprocher du gaullisme, ce que Jean-Marie Le Pen n'aurait jamais pu faire. Jean-Marie Le Pen, c'est pas possible. Jean-Marie Le Pen, c'est un anti-gaulliste pure souche, pur sang. Voilà, la guerre d'Algérie, etc. Enfin, Jean-Marie Le Pen, c'est pas, juste pas possible, quoi. Marine Le Pen, elle est plus jeune, elle n'est pas de la même génération, et elle s'est plutôt mise dans les pas petit à petit de la grandeur du général. Elle est allée déposer des gerbes de fleurs devant sa tombe et tout, ce que Jean-Marie Le Pen n'aurait jamais fait. Xavier Bertrand, c'est le dernier à droite à avoir appelé à voter communiste plutôt que RN. Mais oui, et c'est dû au fait que Xavier Bertrand a été élu président de la région PACA grâce aux voix de la gauche. Xavier Bertrand, il sait ce qu'il doit au Front républicain. Il lui doit beaucoup. Donc, PACA, non, pardon, Hauts-de-France, Hauts-de-France, pardon, Hauts-de-France. Allez, du coup, cette tribune de Éric Zemmour, comment est-ce que lui, il plaide pour cette union des droites, justement? Il y a un an, une rumeur court. Je veux me présenter à la primaire des LR. Des réunions de crise s'organisent chez LR pendant que les éditorialistes défilent à la télévision pour prédire ma sérieuse chance de victoire au regard de la base zémorisée de LR. Affolés, les dirigeants de ce parti ajoutent une clause à leur statut pour m'en interdire l'accès. Ah oui, c'est vrai. Malin, Éric Ciotti reprend mot à mot mes propos et gagne sa place au second tour de la primaire en annonçant qu'il voterait pour moi contre Macron. Il me l'avouera en riant au téléphone, j'ai fait toute ma campagne sur ton nom. Un an plus tard, le même Ciotti, pour se racheter une vertu, hurle avec les loups de gauche contre moi, puis contre le député RM Monsieur de Fournasse. Loin de moi l'idée d'accabler le pauvre Ciotti. Il n'est pas le seul, c'est le destin de LR de se soumettre au centrisme. C'est même son ADN, depuis que Chirac l'a fondé pour faire l'alliance de la droite et du centre. Donc c'est l'UMP, hein, l'alliance de la droite et du centre. Cette alliance condamne LR à donner des gages au centre, qui lui-même donne des gages à la gauche. Les Français de droite sont ainsi sans cesse floués, trompés, trahis. Il faut briser ce cercle infernal. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai fondé le parti Reconquête. Chez nous, il n'y a pas de cordon sanitaire avec le RN. Ben oui. Pas d'alliance avec le centre non plus. C'est marrant que... Excusez-moi, je m'interromps, mais c'est marrant qu'il fasse du cordon sanitaire une conséquence d'une espèce de pression que mettrait la gauche. C'est pas tant la gauche que les gaullistes. Le cordon sanitaire à droite. Oui, la gauche est anti-nazie, bon, bah ça d'accord, mais une fois que tu l'as dit, d'accord, mais c'est les gaullistes qui imposent le cordon sanitaire, enfin qui l'ont imposé. C'est quoi le cordon sanitaire? Le cordon sanitaire, c'est la séparation nette et indépassable entre la droite et l'extrême droite. Le cordon sanitaire est mal vu. Bah, chez Zemmour, oui. C'est pour ça que lui, il a aboli le cordon sanitaire. Non, mais c'est pour ça, c'est dans son argumentaire, il fait du cordon sanitaire une espèce de soumission au centrisme. Et ça condamnerait LR à donner des gages au centre qui lui-même donne des gages à la gauche. Et ensuite, il parle du cordon sanitaire. Tu fais, non, mais le cordon sanitaire, c'est pas un gage que la droite donne au centre et que le centre donne à la gauche. Le cordon sanitaire, c'est un truc qui réunit toutes les forces de la résistance. Donc, chez nous, il n'y a pas de cordon sanitaire avec le RN. Pas d'alliance avec le centre non plus. Nous faisons l'union des droites et cela se voit dans nos instances et nos fédérations. Comme cela s'est traduit dans les urnes avec mes 2,5 millions d'électeurs venus à parts égales de LR et du RN. Nicolas Sarkozy me l'a dit lors de notre déjeuner, les LR sont condamnés, ils n'ont pas d'avenir, leur destin est de finir écartelés entre Macron et toi. Il y a toujours l'impensé de Marine Le Pen, je trouve ça dingue. Quand on demande aux électeurs LR s'ils veulent l'union des droites, une moitié est contre et l'autre pour. La moitié contre a voté Macron dès le premier tour de la présidentielle et non Pécresse, car ils ont préféré l'original à la copie. Ils ne voteront ni Wauquiez ni Retailleau, car ils préféreront un parti au gouvernement à un vieux parti qui n'a plus touché au pouvoir depuis plus d'une décennie. Tout le reste des LR souhaite l'union des droites, et beaucoup ont voté pour moi. Pécresse a ainsi perdu le dernier enjeu symbolique de sa campagne en finissant derrière moi, le 10 avril. Et j'ai donc été le quatrième homme de cette élection, plaçant Reconquête comme premier parti de droite. C'est dingue. C'est vraiment un impensé de Le Pen. Genre vraiment, Éric Zemmour, il est... Enfin, je sais pas. Tu regardes... Tu regardes l'élection présidentielle de 2022. Bah, en gros, à droite, c'est pas compliqué. Il y a Macron et moi. Ouais. Je veux dire, il y a quelqu'un entre les deux, quand même, qui a fait quand même pas mal de voix. Pas mal, beaucoup plus que toi. Je sais pas. C'est... Après, comme, en même temps, peut-être qu'Éric Zemmour, comme Éric Zemmour estime que Marine Le Pen est de gauche, peut-être qu'il ne la range pas à droite. Et que du coup, ça lui permet d'effacer le RN du tableau. Et pour avoir une vision d'ensemble de la droite sans le RN. C'est audacieux. Je sais pas. Je sais pas. Ces Français ne veulent ni du socialisme mariniste. Oui, voilà. Voilà, c'est ça, c'est bon, on l'a. C'est bon, je me disais bien, il doit y avoir une raison. Donc voilà. Donc la droite ne veut ni du socialisme mariniste, ni de la fausse fermeté LR. Ah, mais ça veut dire. Si tu ranges Marine Le Pen à gauche, si tu additionnes les scores de Le Pen, Mélenchon, plus les communistes, les socialistes et les écolos, ça fait que, putain, mais la France est à gauche de ouf! C'est full gauche en fait ce pays. Si tu vois les choses comme ça. Ah bah je comprends qu'ils se sentent en mode citadelle assiégée, on va tous crever, hein. La France est woke. Macron aussi est de gauche selon lui. Ah mais oui, c'est vrai, t'as raison en plus. Oui, non, t'as raison, t'as raison, t'as raison. Oui, là, Macron aussi est de gauche selon Éric. Ah bah du coup, ça règle le problème, hein. Ça fait que du coup, la gauche, dans la tête d'Éric Zemmour, la gauche, ça comprend Mélenchon et ses satellites, Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Et LR, qui du coup sont condamnés à donner des gages au centre, qui est condamné à donner des gages à la gauche. Donc ça fait qu'on est à peu près à 93% d'électeurs de gauche dans ce pays. Et il ne reste que les 7% d'Éric Zemmour qui représentent la droite. Je l'aurais pas tenté celle-là. pour 93% de gauchos, quelle indignité. Ah non, mais tout part à volo, hein. Excusez-moi, je continue la lecture de la tribune d'Éric Zemmour. Ces Français ne veulent ni du socialisme mariniste, ni de la fausse fermeté LR. Je me sens proche d'eux car comme eux, je faisais partie de la tradition du RPR. Ils ont le même discours que Reconquête. Sur l'école, le travail, le mérite, contre le wokisme et sur l'identité de la France. Ils ont compris que mon positionnement équidistant entre le RN et LR était dans l'intérêt de la France et dans le sens de l'histoire. Partout en Europe, en Suède, en Italie et même en Israël, c'est l'union des droites qui gagne les élections. Seule la France refuse encore cette évidence. Giorgia Meloni a fait 4% en 2018, elle gouverne aujourd'hui l'Italie parce qu'elle a rassemblé toutes les droites. En France, chacun pense gagner seul, alors que cela fait déjà trois présidentielles que nous perdons. Sortons de cette spirale funeste, retrouvons-nous sur le sujet qui nous rassemble tous, la défense de la France. Bon, du coup, c'est une tribune de Zemmour qui plaide pour Zemmour, plus que pour... Enfin, il plaide pour l'union des droites autour de lui. Non, mais le melon d'Éric Zemmour est quand même énorme, hein. Giorgia Meloni, en 2018, elle faisait 4%. Aujourd'hui, elle est première ministre. Ok, moi, j'ai fait 7%, donc autant dire que j'ai pris mes dispositions, j'ai pris mes billets d'avion et tout. Normalement, d'ici 4 ans, si mes calculs sont bons, je suis président de la République. On en connaît d'autres hein, qui ont fait 4% en 2018 et qui sont encore très, 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 très loin du pouvoir. Merci, Fedoff. Non, non, c'est... Enfin, je trouve l'analyse d'Éric Zemmour curieuse, Je le croyais plus fin analyste que ça. Non, non, mais pour le coup, c'est une tribune qui est toute à sa gloire et qui donne pas beaucoup plus d'explications intéressantes sur. Enfin, non, non, il dit deux, trois trucs sur l'électorat, selon lui. En disant, en gros, l'électorat LR, il y en a deux types. Il y a ceux qui, de façon, préfèrent Macron et qui vont, de façon, sont condamnés à aller vers Macron. Et puis, il y a les autres, ceux qui défendent vraiment la vraie France. Et ceux-là, j'ai vocation à les appeler à un grand rassemblement, etc. Et bientôt la tribune, c'est tellement évident que je serai président que si je ne le suis pas, c'est qu'il y a eu fraude. Je ne sais pas si Éric Zemmour va devenir le Trump français au sens de la contestation de la régularité des élections. Je ne sais pas. Certains de ses partisans ont laissé courir le bruit au cours de la présidentielle, mais est-ce que lui ira jusque-là? J'ai du mal à imaginer Éric Zemmour faire des grands discours en dénonçant la corruption des préfets, des bureaux de vote tenus par des mairies de gauche, je sais pas. Un peu décevant pour l'instant, le Figaro. Non, 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 je la trouve intéressante, l'analyse de Karl Meus. Je la trouve intéressante parce que, alors, bon, il y a quand même un impensé autour de Marine Le Pen que je trouve dingue. Mais il y a une analyse intéressante des jeux et notamment un point de vue sur la campagne interne chez les Républicains autour de Ciotti, Retailleau et Pradier, où Ciotti s'est un peu fait avoir par Retailleau et Pradier qui ont réussi à faire la course à l'échalote du positionnement le plus à droite. Du plus radical, et on sait que dans les scrutins internes, c'est souvent ce qui marche le mieux. Je dis bien souvent, attention, c'est pas toujours le cas. On l'a vu chez les écolos, où Marine Tondelier ne fait pas partie des écolos les plus radicaux, même si il faut bien différencier chez les écolos la désignation par un système de primaire du candidat à la présidentielle et la désignation par un système de congrès de l'équipe dirigeante du parti. Y a des partis dans lesquels la fracture est plus nette que dans d'autres. Chez les Républicains, c'est pas tout à fait pareil. Là, on parle de la droite. Oui, c'est ça. Non, je suis d'accord avec toi, Tom Pouce. Là, on parle de la droite, c'est des légitimistes. Donc, ils cherchent un chef et tout. La figure tutélaire du chef, etc., ça reste important pour eux. Intéressant, en tout cas. Je garde ça en tête, en tout cas, comme analyse pour dimanche. Je garde ça en tête aussi pour jeudi, pour la niche parlementaire. Les Républicains, ça va être intéressant à analyser. Il y a des radicaux chez ELV maintenant? Bah, ceux qui s'en revendiquent, en tout cas, de l'écologie radicale, oui. C'est pas à moi de, c'est pas, encore une fois, c'est pas à moi de distribuer les médailles. Bon. Éric Zemmour, à mon avis, il mériterait d'écrire un peu mieux son truc sur l'union des droites, parce que là, à part dire regardez comment je suis trop intelligent et comment je suis le plus grand parti de droite et comment je suis président de la République dans 4 ans, il est un peu décevant sur l'analyse. En même temps, c'est une tribune, tu me diras. Allez, Renaud Muselier de son côté. Donc Renaud Muselier, je rappelle, président de la région PACA, qui a fait alliance avec Emmanuel Macron pour conserver sa région et pour qu'elle ne tombe pas aux mains du Rassemblement national. Donc Renaud Muselier, il a quitté les Républicains et il représente plutôt cette aile des responsables, des hauts responsables des Républicains qui ont franchi le Rubicon dans l'autre sens pour rejoindre Emmanuel Macron. Qu'est-ce qu'il dit, lui, Renaud Muselier? Près de 2 ans après les élections régionales où, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, deux visions de la politique se sont affrontées, la droite est de nouveau confrontée à ce choix. Mais il est devenu existentiel. Le rassemblement est l'addition des raisonnables avec une culture de gouvernement ou l'union des droites extrêmes sur fond de populisme, de nostalgie et de peur. Intéressant. Ça a le mérite d'être clair. Donc d'un côté, le sien, celui de Renaud Muselier. Le rassemblement est l'addition des raisonnables avec une culture de gouvernement. Donc, les gens de droite pas débiles, qui ont conscience que l'important c'est de gouverner et que donc vaut mieux le faire avec Macron que rester tout seul dans une opposition stérile. Et de l'autre, l'union des droites extrêmes sur fond de populisme, de nostalgie et de peur, en gros Zemmour. Pour y répondre, la droite doit retrouver son ADN. De Gaulle, Pompidou, Chirac, Sarkozy, tous ceux qui ont fait gagner la droite dans ce pays ont bâti une digue claire face aux extrêmes. Sarkozy, c'est moins, elle était moins claire que les autres. À l'exercice, même si ça a évolué plus tard, mais à l'exercice, Sarkozy l'a dit clair avec les extrêmes. On peut en discuter. Ceux qui ont transgressé cette règle ont toujours commis une double faute morale et politique. Morale parce que nos principes n'ont historiquement et philosophiquement rien à voir avec ceux de l'extrême droite. Politique parce que tous ceux qui ont tenté cette aventure à partir des régionales de 1998 ont toujours perdu, puis disparu. La droite doit définitivement abandonner le logiciel du rabougrissement, du bunker. Elle doit éviter la disparition par l'absorption, comme le PS avec la NUPES. Ça, faudra qu'on en discute, hein. La disparition du PS dans la NUPES, c'est le langage un peu facile, je trouve, qui est tenu par les tenants du hollandisme, les tenants du macronisme et les tenants de la droite. Faudra qu'on en discute de ça. Pour la droite, c'est le changement de cap ou le naufrage. Je le dis à mes amis restés LR et qui désespèrent de ne pas peser sur la politique nationale au prix de talents gâchés, enfermés dans une opposition systématique. Perdre trois présidentielles, passer de 350 députés à 60 et ne plus tenir aucune ville de plus de 100 000 habitants aurait dû calmer les stratèges du repli sur soi. Attendez, je reprends ce paragraphe. Pour la droite, c'est le changement de cap ou le naufrage. Ou le naufrage. Je le dis à mes amis restés LR et qui désespèrent de ne pas peser sur la politique nationale. Ça aussi, on pourrait en discuter. Au prix de talents gâchés, enfermés dans une opposition systématique. Perdre trois présidentielles, passer de 350 députés à 60 et ne plus tenir aucune ville de plus de 100 000 habitants aurait dû calmer les stratèges du repli sur soi. Ouais. Vous allez dans le mur, bande de cons. Il faut prendre des responsabilités nationales sur la base d'un pacte de gouvernement, assumer des ministères régaliens et des secrétariats d'État d'efficacité. Il faut aider notre pays à sortir des crises sociétales, climatiques et militaires en trouvant des majorités comme au Parlement européen sans se renier. La survie de la droite française en dépend, sinon elle se dissoudra dans le Rassemblement national. Il en va de l'avenir de la France. Ok. Effectivement, je me demande. Merci Dadao76, merci Nictu. Et merci Sadlig. Je me demande comment les électeurs, les républicains, analysent effectivement leurs défaites successives aux présidentielles. Est-ce que c'est à cause du contexte? Est-ce que c'est à cause du méchant Macron? Est-ce que c'est la faute aux autres? Ou est-ce qu'il y a une stratégie du parti, les républicains? En gros, la question que je veux poser, je vais la poser différemment. Comment les républicains auraient-ils pu faire mieux pour ne pas perdre les trois dernières présidentielles? Merci Stéphalf. Pas très argumenté non plus. Non, pas très argumenté, je suis d'accord avec toi. Mais elle est plus courte que celle de Zemmour, la tribune de Muselier. Tu vois, la tribune de Muselier, c'est un bas de page. Et la tribune de Zemmour que j'ai lue juste avant, c'était une deux tiers de page. C'est plus fin. C'est pas pareil. Bah, c'est-à-dire que Renaud Muselier, il s'adresse directement aux électeurs LR pour leur dire rejoignez-moi. Tu me diras, Zemmour aussi, il s'adresse aux électeurs LR en leur disant rejoignez-moi. Ne pas mettre Fillon mais Juppé en 2017. Je sais pas si Juppé ça aurait été. Parce que le problème de Juppé, Fillon, etc., c'est. Ah, merci pour les 5 subs, Sadlig. Merci beaucoup pour les 5 subs.
Je possède des thunes. Je suis à l'aise financièrement. Je ne me plains pas. Mes affaires marchent en ce moment.
Merci beaucoup. Il n'y a jamais de personnes de gauche qui écrivent dans le papier. Dans quel papier? Ils n'ont jamais réussi à faire l'après Sarkozy. Non, voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est qu'en fait, ils n'ont jamais réussi à dépasser le sarkozysme. Ils ont continué à. Enfin, je pense que l'une des erreurs du Parti Les Républicains, c'est facile à dire, hein, c'est de jouer sur la nostalgie. C'est-à-dire que toutes les figures du Parti Les Républicains, c'est que des gens qui ont été ministres sous Sarkozy ou avant ça sous Chirac. Enfin, tu vois, ils te ressortent un Juppé, Fillon qui était Premier ministre, Xavier Bertrand, Valérie Pécresse. Mais même là aujourd'hui, tu vois, Éric Ciotti, il n'était pas ministre, mais il était un des députés les plus farouchement pro-Sarkozy à l'époque de Sarkozy. Bruno Retailleau, c'est le président des sénateurs LR, c'est pas non plus le renouveau. Enfin, ouais, Bellamy, bah Bellamy, ça a été un plantage, effectivement. Bellamy, ils sont plantés alors qu'ils sont allés chercher un mec nouveau. À Laurent Wauquiez, ouais, pareil. Donc j'ai l'impression qu'LR, c'est un espèce de parti de nostalgie. De la grande époque du sarkozysme triomphant de 2006 à 2008-2010, quoi. Ouais, c'est ça, de 2006 à à la crise financière. Comme le PS, pas de renouveau. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'on a toujours reproché au PS, le coup des éléphants, tu vois, t'avais la génération gâtée du mitterrandisme qui pétait les burnes matin, midi et soir et qui était indécrottable et qui continuait à te parler de Mitterrand dans tous les meetings jusqu'au début du 21e siècle. Le Pen-Mélenchon, c'est pas très neuf non plus. Non, effectivement. Non, non, mais ça, je te renvoie aux analyses qu'on avait faites déjà ensemble au moment de la présidentielle sur cette chaîne. On se disait déjà que le paysage politique français ne nous offre pas une respiration de nouveauté dans les profils et dans les visages. Je veux dire, les candidats, même les petits candidats, hein. Pécresse, c'est une ancienne ministre. Hidalgo, ça fait 20 ans qu'elle est au pouvoir à Paris avec Delanoë. Le Pen, c'est la fille de son père. Xavier Bertrand, c'est un ancien ministre. Emmanuel Macron, il est déjà au pouvoir. Et voilà. Et ce qui a permis à Emmanuel Macron de gagner le pouvoir en 2017, c'était aussi l'aspect de nouveauté, nouveau visage. Bon, en 2022, il était plus très neuf parce qu'il était déjà au pouvoir depuis 5 ans et le pouvoir, ça use. Mais voilà, Mélenchon, c'est un ancien sénateur socialiste, mitterrandien. Bon, c'est pas. Bon. Et c'est pour ça. Et je vous le redis. Éric Zemmour, pareil. Hein, c'est pas le renouveau non plus. Hein. Mec, on voit à la téloge depuis 20 ans, ça va quoi. Et c'est pour ça que Sandrine Rousseau a fait un bon score c'est pour ça que Sandrine Rousseau a fait un bon score à la primaire. Nouveau visage, nouveauté, du sang frais, quoi. Genre, enfin, quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui bouscule. Par contre, 13% au congrès ELV. Ouais, la motion que soutenait Rousseau a pas fait un bon score. Après, je vous redis encore une fois qu'au sein d'Europe Écologie Les Verts, il faut vraiment séparer la gestion du parti et la direction et la désignation des candidats à la présidentielle. C'est vraiment pas la même élection. T'as plus de sympathisants qui votent à la primaire et t'as vraiment que les adhérents militants qui votent au congrès. Pradier est un nouveau. Alors, il y a Aurélien Pradué, effectivement, qui a un nouveau visage à droite. Il y a Jordan Bardella, qui a un nouveau visage, qui a pris la tête du RN. C'est vrai que c'est ce qu'on disait jeudi dernier. Enfin, c'est pas jeudi, c'était je sais plus quel jour. Lundi. Lundi dernier, on se disait, quand on y pense, le patron du parti, du Rassemblement National, il a une trentaine d'années. Le président du parti présidentiel, il a une trentaine d'années. Si c'est Bruno Retailleau qui est élu président des Républicains, t'es en mode mec, pas la même génération. Il a même pas 30 ans, Bardella. Il a encore 29 ans? Je sais pas où il en est. C'est une bonne question. Oui, peut-être qu'il n'a pas encore 30 ans. Je sais pas. Ok. Emmanuel Macron a réussi à se faire réélire car campagne trop similaire à la précédente. C'est plus compliqué que ça. Puis en plus, il a vraiment pas vraiment fait campagne. Hein. Mathilde Panot, 33 ans, même si c'est la chef qu'à l'Assemblée nationale. Ouais. Ouais. L'abaissement des âges des responsables politiques ne doit pas devenir une obligation. Non, 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 je suis pas en train de dire qu'il faut que ce soit obligatoire. Je dis juste que dans un paysage qui manque de renouveau, la jeunesse est un avantage. Voilà. En même temps, compliqué de faire campagne et d'être au pouvoir. Oh, t'as pas connu Sarkozy en 2012, toi. C'est un meeting tous les 3 jours. À tel point que ça a dérapé les dépenses de campagne. Quatre raisons d'espérer. Alors, le Figaro Magazine propose quatre raisons d'espérer pour la droite de demain. L'avenir est à droite, selon Judith Vintraube, qui écrit cet article. Eh ben, on va regarder quelles sont les quatre raisons. Première raison, la France est de plus en plus à droite. Intéressant, on va voir. La Fondapol s'est penchée sur la séquence présidentielle législative de 2022, la plus désastreuse jamais enregistrée sous la Ve République par un parti revendiquant de représenter la droite républicaine, donc les Républicains, quoi. Son étude, publiée en exclusivité par le Figaro le 29 août dernier, montre qu'en même temps, les idées de cette droite n'ont jamais été aussi majoritaires dans l'électorat. Pour distinguer préférences partisanes et positionnement de fond, le think tank a défini une série de marqueurs sur les sujets économiques et régaliens. Nécessité de réduire les dépenses publiques, conviction que les chômeurs pourraient trouver du travail s'ils le voulaient vraiment, vision négative de l'immigration, souhait que la police soit moins bridée dans l'usage des armes à feu lorsqu'elle intervient sur le terrain, volonté de ne plus mélanger dans les mêmes classes les enfants qui ont des difficultés scolaires et ceux qui n'en ont pas, etc. Donc c'est vraiment des marqueurs de droite. Donc ça, c'est des marqueurs de fond et non pas des marqueurs partisans, effectivement. Au premier tour de la présidentielle, les cinq candidats se revendiquant de droite ont obtenu 40,2% des suffrages exprimés. En y ajoutant les électeurs d'Emmanuel Macron qui adhèrent aux marqueurs de droite, qu'ils se définissent eux-mêmes comme la droite du centre ou de nulle part, la Fondapol aboutit à un total de 57,7% des suffrages exprimés. D'accord. Donc si on retire les étiquettes partisanes mais qu'on regarde que les indicateurs de fond, la Fondapol a mesuré à 57,7% des Français qui sont d'accord sur ces thèmes-là. D'accord, ok. Bien sûr, un électeur étato-souverainiste du Rassemblement National et un libéral macroniste convaincu que la solution de la crise migratoire passe par l'Europe ne se trouveront pas spontanément d'atomes crochus, c'est vrai. Mais ce qui les rassemble sur les sujets de préoccupation majeure du moment est plus fort que ce qui les divise. La droitisation de la société française, dénoncée avec effroi à longueur de colonne du Monde, est bien une réalité. Ah oui, parce que le Monde, pour les Figaro, c'est le Monde, c'est le pire des journaux pour le Figaro. Donc la droitisation dénoncée par le Monde est bien une réalité, selon cette étude de la Fondapol. Ok, premier argument donc, pour les raisons d'espérer pour la droite. Deuxième argument... L'hypothèque Macron est levée. Le président de la République, quelle que soit sa popularité à l'issue de son second mandat, ne pourra pas en briguer un troisième en 2027. La Constitution le lui interdit. C'est une autre raison d'espérer pour les Républicains qui ont assisté impuissants à l'accélération de la fuite de leur électorat vers Emmanuel Macron. En 2017, environ 17% des électeurs de Nicolas Sarkozy avaient voté pour le candidat En Marche. Dès le premier tour, selon le sondage réalisé à l'époque. Cinq ans plus tard, le président a engrangé quelque 34% des voix qui s'étaient portées pour son fiction lors du précédent scrutin. Ben là, je vois pas de raison d'espérer. Hein. C'est que vraiment, l'hémorragie, elle a continué, elle s'est amplifiée. Le sortant aura évidemment un, voire plusieurs aspirants à sa succession dans son camp. Mais le « et de droite et de gauche », clé du succès macroniste, peut-il à nouveau séduire les électeurs au-delà des frontières partisanes ? Rien n'est moins sûr. D'autant que d'après les enquêtes sociologiques de socle électoral d'Emmanuel Macron, le socle électoral d'Emmanuel Macron s'est modifié au fur et à mesure de ses deux mandats. Au départ plutôt jeune et progressiste sur les sujets sociétaux, il est devenu âgé et conservateur, c'est vrai. Bref, il s'est rapproché de l'électorat de la droite. Une évolution favorable au futur candidat estampillé Les Républicains à condition qu'il soit capable de convaincre une majorité des Français de préférer l'original à la copie. Surtout si l'héritier putatif du macronisme s'appelle Édouard Philippe, Gérald Darmanin ou Bruno Le Maire. Bah, alors là, pardon, j'ai bien compris l'argumentaire, mais moi je trouve que c'est au contraire un argumentaire qui plaide pour l'inverse. Je vois pas comment est-ce qu'on peut voir comme une raison d'espérer pour Les Républicains le fait que leurs électeurs se sont encore plus barrés en 2022 qu'en 2017 pour rejoindre Macron. Le seul argument qui va dans ce sens, c'est le début du paragraphe qui dit que Macron n'a pas le droit de se présenter en 2027. Il dit ouais, du coup, on a une chance, quoi. Juste parce que Macron n'a pas le droit. Il est tellement bon, vous vous rendez compte, il est tellement meilleur que nous à nous piquer nos électeurs qu'on a de la chance, il n'a pas le droit de se représenter. C'est peut-être le seul argument qui tienne, mais le reste, je suis désolé. Il ne peut pas me dire qu'il y a des raisons pour les Républicains de... En plus, je ne comprends pas l'argument. Ils disent eux-mêmes que sociologiquement, l'électorat de Macron a muté et qu'il s'est dirigé de plus en plus vers des gens plutôt âgés et plutôt conservateurs. Donc, en gros, l'électorat, les Républicains. Encore une fois, je ne vois pas de raison d'espérer, quoi, vraiment. Ils se sont rendus compte que Macron était à droite. J'en sais rien, je m'en fous qu'il soit à droite ou pas. En tout cas, ça correspond à ce que les électeurs de droite aiment bien. C'est tout ce qui doit compter électoralement. Donc voilà, les électeurs se retrouvent davantage dans Macron que dans LR. Moi, je vois pas de raison d'espérer, les gars. Va expliquer à ces mêmes électeurs qu'il va falloir voter pour un candidat LR en 2027. Bon. La marée va revenir. Ouais, j'ai l'idée, ouais. Oui, c'est le ressac. C'est le retour de la vague après. En gros, les électeurs de droite qui se sont un peu perdus dans le macronisme ces 10 dernières années vont gentiment revenir au bercail et revoter pour LR comme avant, quoi. Putain, j'ai l'impression d'avoir les analyses un peu claquées du cul des Hollandais au PS. Les électeurs de gauche qui ont voté Macron, ils vont avoir compris leur erreur et ils vont revenir gentiment revoter PS comme avant-hier, quoi. Vraiment, les gars. Espèce de nid naturel des électeurs dans le paysage politique dans lequel on évolue. S'il y a bien un truc qui n'existe pas, c'est les fidélités de long terme. Hein. Le déni. Ouais, non, mais c'est. Au demeurant, ce que je suis en train de dire, c'est valable pour tous les partis. Hein. Enfin, je veux dire, s'il y a bien un truc qui a été étudié par les chercheurs, etc., c'est la volatilité des électorats. Le phénomène abstentionniste et la volatilité. C'est-à-dire que des gens qui ont voté avec ferveur et adhésion pour un candidat au cours des dernières élections peuvent très bien voter pour un autre candidat en claquant des doigts à la prochaine. Ça vaut pour tout le monde. Les responsables politiques ne sont plus du tout propriétaires des voix. Autant ça pouvait exister par le passé, des espèces de partis un peu naturels pour certains électeurs. Bon, c'est un espèce d'électorat un peu moutonnier qui votera toujours pour tel parti et tout. Tu pouvais faire de l'électoralisme, enfin tu pouvais faire un peu des calculs en disant, bon, de toute façon les profs ils vont voter PS parce que les profs votaient toujours grosso merdo PS. Une bonne partie des ouvriers va voter communiste parce que de toute façon les ouvriers votent communiste. Enfin vous voyez, voilà, t'avais toujours un peu ces électorats-là. Aujourd'hui ça n'existe plus, ça, vraiment. Et c'est pareil pour tous les partis, y compris la France Insoumise, y compris Marine Le Pen, l'électorat populaire de Marine Le Pen que vise François Ruffin. Y a rien n'empêche François Ruffin de réussir à leur parler et d'obtenir leur vote. Donc, ça veut dire que les jeux sont ouverts pour tout le monde, mais ça veut aussi dire que personne n'a de patrimoine électif à mettre dans sa besace et sur lequel il peut compter éternellement, quoi. Si, leur racisme. Bah, même les électeurs racistes, pendant longtemps, en gros, ils avaient le vote Le Pen. Maintenant, ils ont quand même plusieurs candidats. Tu m'accorderas qu'il y a quand même plusieurs candidats qui peuvent leur plaire aux électeurs racistes. Donc, même ça, tu vois. Même l'électorat raciste, on ne peut pas dire qu'il y ait un seul parti qui puisse se prévaloir de l'ensemble de leur soutien. Je parlais par rapport à Ruffin et l'électorat FN. Ah oui, non, mais juste. Oui, alors, mais oui. Je vois ce que tu veux dire, excuse-moi. Mais du coup, j'attire ton attention sur le fait que même les électeurs de Marine Le Pen ne placent plus la question migratoire aux têtes de leurs priorités. Et que maintenant, c'est devenu le pouvoir d'achat. Donc je pense que François Ruffin, il a une carte à jouer. C'est ce que disait Mélenchon en 2000. 17 sur la Fédération populaire à l'époque où il parlait des fachos pas fachés, des fâchés pas fachos, justement, l'inverse. Des fâchés pas fachos. Tu l'analyses comme une perte de repère ou comme une perte de fidélité? Moi, je l'analyse comme une perte de fidélité, pas comme une perte de repère. Je suis d'accord avec toi. Ces arguments donnent l'impression d'être là pour s'auto-rassurer du retour de la droite de papa ou de Gaulle. Oui, non, mais attends, encore une fois, hein, c'est le Figaro Magazine. On n'est pas là pour se faire peur, on est là pour se rassurer. Les gens, ils ont payé 6,50 € pour être rassurés. Il ne faut pas leur écrire 4 raisons qui devraient inquiéter la droite. Non, non, ils sont là pour lire un article, 4 raisons d'espérer. C'est du principe de bulle de filtre assez élémentaire de la presse écrite alors là, Internet n'a aucune leçon à donner à personne, hein, c'est pas le sujet. Mais les gens préfèrent être rassurés plutôt qu'inquiétés. Donc, vaut mieux dire aux gens, regardez comment vous avez raison d'avoir raison. Ça marchera toujours mieux. Hop. Troisième raison d'espérer. Les médias web, c'est pareil. Ah oui, non, non, les médias web, les chaînes YouTube, etc. Non, 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 c'est électorat captif, clic captif, les gens qui pensent comme toi cliqueront sur ton contenu si tu leur dis que tu penses bien comme eux. Non, non, ça c'est. Mais ça fonctionne toujours comme ça, bien sûr. Quoi? Le Figaro veut rassurer l'électorat de droite, je te jure. Troisième argument. Au moins deux candidats crédibles sont dans les starting blocks. Plus encore que sur le projet et la stratégie, une présidentielle se joue sur l'incarnation. C'est vrai. Surtout à droite. Chez les Républicains, deux personnalités, deux hommes, sont actuellement sur la ligne de départ pour 2027. Laurent Wauquiez et Xavier Bertrand. Pourquoi il ressort Xavier Bertrand? Foutez-lui la paix. Ils se sont l'un comme l'autre repliés sur leur fief régional, Auvergne-Rhône-Alpes et Hauts-de-France, après leurs échecs respectifs, aussi spectaculaires l'un que l'autre. Défaite historique de la droite aux européennes de 2019 pour Wauquiez, président de LR à l'époque, et élimination de Bertrand dès le premier tour de la primaire pour désigner le candidat de la présidentielle en décembre 2021. Deux grands brûlés, donc, mais qui ne manquent pas de soutien ni de ressources. Ça, je veux bien l'admettre. Aucun des deux ne considère que le contrôle de l'appareil est suffisant pour lui assurer l'investiture. Ils ont raison. Mais ils savent tous les deux, que le soutien du parti est indispensable. On peut en discuter de ça. Laurent Wauquiez est le plus directement impliqué dans l'élection à la présidence. Il soutient Éric Ciotti et c'est réciproque puisque le député des Alpes-Maritimes l'a déjà désigné comme le meilleur des candidats possibles en s'engageant à lui éviter l'épreuve de la primaire. Xavier Bertrand, dont Aurélien Pradier est proche, s'est bien gardé de se mêler publiquement de la campagne interne. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, je réfléchissais. Ouais. Il a lancé en octobre dernier son nouveau mouvement, Nous France, moi Tarzan, et envisage déjà d'accueillir, si nécessaire, les transfuges LR hostiles à la ligne Ciotti. J'ai pas envie de démonter cet article, hein. Je comprends qu'encore une fois que le but de l'article c'est de rassurer les lecteurs LR de base en lui disant vous avez des raisons d'espérer en 2027, mais misez pas tôt sur Wauquiez. Enfin, non pas qu'il soit pas bon, c'est pas ce que je dis, c'est juste qu'il est pas seul. C'est que là il y a deux candidats crédibles dans les starting blocks, Laurent Wauquiez et Xavier Bertrand. Laurent Wauquiez, oui, dans les starting blocks, Xavier Bertrand, j'attends encore de voir. Et puis surtout, encore une fois, pardon, big picture, il y a quand même un potentiel Édouard Philippe ou Bruno Le Maire ou machin, donc quand même dans le genre candidat crédible dans les starting blocks, il y a aussi quand même pas mal. Il y a aussi potentiellement une Marine Le Pen ou un Jordan Bardella. Il y a aussi un Éric Zemmour, faut pas l'oublier. Enfin, je veux dire, Wauquiez, il n'est pas tout seul hein, dans les starting blocks. Donc. Non, non, mais c'est oui. C'est un peu comme une course de cheval où tu maillis sur un cheval, tu regardes que ce cheval-là et tu dis, ouais, non, mais regarde, il est bien, il est musclé. Un analyste, il te dit, ouais, mais enfin, regarde les autres quand même. Hein. Ils sont putain de musclés eux aussi. Donc, je veux pas mettre la douche froide, hein, mais. Un JLM ou un Quatennens? Je suis pas sûr que les électeurs de droite voient Jean-Luc Mélenchon ou Quatennens comme des concurrents à droite. NKM revient. Non mais t'imagines? NKM qui revient en politique en France et qui dit j'ai appris de mon voyage à l'étranger, j'ai mûri, j'ai grandi et je suis la réponse de demain de la modernité de la droite. Et là, elle te plie tout le monde au pilori. Paf! Elle les éclate tous. Ou alors à l'inverse, elle fait une Taubira, on en parle pendant 2 mois. Philippe Juvin. Bon. Jean-François Copé, le Turfu. Ah, et Copé, qui va nous écrire pour la quatrième fois le livre J'ai changé. J'ai changé, volume 4. Merci, Julien. Bon. Quatrième raison d'espérer pour les électeurs LR, selon le Figaro Magazine. Si les Républicains manquent de ressources humaines dans la génération d'un Jordan Bardella, 27 ans, il a un David Linard, 53 ans, et François-Xavier Bellamy, 37 ans, au moins deux figures montantes de talent. Le premier, maire de Cannes depuis 2014, préside aussi la puissante Association des maires de France depuis 2021. À la tête de son parti Nouvelle Énergie, il entend rompre avec 40 ans de social-démocratie étatiste. Vaste programme qui se verrait bien remettre en œuvre. Qu'il se verrait bien mettre en œuvre. Le second, donc François-Xavier Bellamy, a déjà enregistré un échec cinglant malgré sa courte carrière, les 8,48% de la liste qu'il conduisait aux européennes de 2019. Cette débâcle digérée d'autant plus facilement que c'est Laurent Wauquiez qui a payé le coup politique, qui en a payé le coup politique, c'est vrai. Il s'est révélé d'une pugnacité redoutable au Parlement européen, notamment dans son combat contre l'islamisme. De là à imaginer François-Xavier Bellamy candidat en 2017, il y a un pas que le principal intéressé ne franchit sans doute pas. Ou pas encore. Oui, ça je suis d'accord. Je suis d'accord pour dire que il y a du jus de cerveau à droite. David Linard et Bellamy sont effectivement des gens de talent qui sont en deuxième division pour l'instant, mais qui représentent des espoirs intéressants pour transformer la droite de demain, etc. Ça je suis assez d'accord. Donc oui. Oui, il y a des gens intelligents à droite. Si c'est intelligent, oui. Enfin, j'ai l'idée. Bon, de là, imaginez Bellamy en candidat en 2027. Voilà. Bellamy, talent. Ah, Bellamy, il est pas mauvais. Il s'est pété la gueule à une élection. Mais il est loin d'être débile. Hein. Ça turbine assez vite, même là-haut. T'aurais une opinion sur la différence entre NKM et Dati? Non, j'ai pas d'opinion sur la différence entre NKM et Dati. Dati, elle est maire d'un arrondissement. Elle est toujours en politique. Elle a été tête de liste à une élection municipale. NKM, elle a disparu du paysage depuis... Je sais pas combien de temps, donc ça n'a pas de sens de les comparer. Je vois pas sur quoi tu veux les comparer. Déçu du papier en vrai. Bah, moi en tout cas, moi je suis déçu que sur un magazine aussi épais que ça, l'article intéressant sur le sujet de la une ne fasse que 4 pages, quoi. Et encore, faut retirer les photos. C'est chiant, j'aurais bien voulu un magazine entier d'analyse, de réflexion, de tribune, d'interview... Ça me saoule parce que du coup on n'a qu'un article écrit par un journaliste qui n'est pas inintéressant, hein, qui donne des éléments sur les positionnements contextuels et relatifs de Ciotti, etc. Ouais, ok, pas mal. Mais le reste on s'emmerde quoi. Donc en gros c'est ça, on a eu un article de Tribune et un papier d'une page sur 4 raisons d'espérer. De quoi me faire regretter d'avoir acheté un magazine papier. Alors franchement, j'aurais pu lire les mêmes articles sur le Figaro.fr, ça aurait été réglé. J'aurais fait des économies. Oh, tu me diras, ça me fera du papier pour allumer le feu dans la cheminée. T'as une cheminée? Non. Non mais c'est chiant. Non mais on m'y reprendra pas. Hein. J'achèterai pas le Figaro Magazine parce que la une m'intéresse et que j'espère trouver à l'intérieur beaucoup de choses intéressantes. Du coup j'ai acheté ça de papier. V'là la pollution. Je me retrouve avec Madame Figaro Magazine dans mon salon là par terre. Un magazine télé, vous vous rendez compte? Un programme TV chez moi. Plus le journal papier du week-end. Ah non, on s'emmerde. Feuillette d'abord. Mais non, mais ça m'emmerde, j'ai pas envie de feuilleter, moi, je... Petite lecture de Madame Figaro ensemble. Non. Ça sert à quoi un programme TV? Demande à tes parents, ils t'expliqueront à quoi ça servait à l'époque. Madame Figaro dans le salon par terre. Ouais, mais je vais l'offrir au coiffeur de mon quartier. Ah, en même temps, mon quartier, là où j'habite. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr que ça va fit. Je suis pas dans les bons quartiers de Paris pour Madame Figaro. Je crois que le coiffeur, il va me voir arriver avec, il va faire. Non, c'est gentil. Non, vraiment, c'est gentil, mais. Non, non. Tu te lâches en scred. Mais non, mais je me lâche. Tu le lâches en scred. Ah, tu le lâches, je croyais que je me le lâchais. Non, oui, je sais pas. Je sais pas ce que je. Non, mais je vais le foutre à la poubelle et puis c'est réglé, hein. Envoie-le à Samuel Etienne. Le pauvre. Il est plus intéressant à lire. Non, mais bon, en vrai. Bon, non, mais j'en ai marre. Moi, ça me saoule parce que du coup, j'ai claqué du pognon quand même. Donc, je vais me garder. Le Figaro Économie, parce que au moins j'espère trouver des trucs intéressants sur le prix de l'énergie, sur les stratégies des fabricants de cigarettes et sur l'enquête sur la formation. Ça, ça m'intéresse. Ça, je trouve ça intéressant. Sur le blocage européen, sur le plafonnement du prix du gaz aussi, ça m'intéresse. Ok, là je peux trouver des trucs intéressants. Bon, encore une fois, pareil, je peux les trouver sur internet. Mais comme j'ai acheté la version papier, eh ben, je vous emmerde, je vais lire sur papier. Hop, c'est mon petit côté 20e siècle. Et dans le Figaro Week-end, qu'est-ce que je peux retrouver d'intéressant? Désolé, hein, j'en ai pour mon argent. Je suis vénère, j'ai acheté ça. Figaro, ils ont des articles intéressants. Flux migratoire en Europe. L'Europe de nouveau en alerte. D'accord. La Serbie réouvre la route des Balkans, mettant les Hongrois et Orban en difficulté. Allemagne, la politique d'accueil au bord de la rupture. Les Français durcissent le ton. L'Italie de Giorgia Meloni peine à se faire entendre. Bon, ok, donc un double page sur l'immigration. L'Assemblée vote la constitutionnalisation de l'IVG. L'abolition de la corrida retirée. Donc ça, c'est l'article qui fait le point sur la niche LFI. Le malaise sur l'affaire Quatennens. Les leçons d'un accord entre LFI et la majorité. Guillaume Tabar, donc qui doit s'émouvoir de voir ce gauchisme chez les macronistes qui ont voté. Vous vous rendez compte? La trahison. Ils ont voté une proposition de loi des insoumis. Les insoumis qui étaient en dehors de l'arc républicain. Il faudrait savoir, tiens d'ailleurs, ils sont dans l'arc républicain ou en dehors de l'arc républicain, les insoumis, maintenant que la majorité En Marche a soutenu un texte d'LFI. T'es pas abonné à Figaro de base? Si, au figaro.fr. Mais pas au journal papier. C'est quoi l'arc républicain? Ah ça, je sais pas, ça faut demander à ceux qui utilisent le mot au premier degré. Hein. Les républicains de Schrödinger, oui c'est ça. Les Verts comptent sur leur congrès pour sortir du brouillard. Donc il y a un article d'analyse du congrès des Verts. Non mais voilà, bah, ça c'est intéressant. Présidentiel, le rétroplanning de Laurent Wauquiez. Alerté sur Macron et McKinsey, le parquet national financier élargit ses enquêtes aux comptes de campagne de 2017 et 2022. Borne passe son oral face au maire avec humilité. Ensuite, il y a des articles à l'international. Un article sur la vie à Kiev sous les bombes, sans eau ni électricité. Les doléances des maires des soldats russes. Poutine veut endiguer une vague de colère aux airs politiques. Intéressant, ça je lirai ça. Violence conjugale, des chiffres toujours inquiétants. L'interminable feuilleton IQSEM, d'accord. Le Vatican milite pour une finance éthique. Ok, ça peut être intéressant. Un texte de l'Église catholique exclut fermement plusieurs secteurs d'investissement. Hein? Intéressant. Bah, je lirai ça. Mixité sociale, l'enseignement privé s'inquiète des pressions du gouvernement. Ah, Pap Ndiaye, le wokiste Pap Ndiaye veut de la mixité sociale dans l'enseignement privé. Attention, mon pape.
Tu vas un peu trop loin là. Tu sais très bien pourquoi les parents y mettent leurs enfants dans le privé. Oh, il risque de m'énerver cet article. Mais je vais lire. Non, vous savez que les sujets éducation pour moi c'est sensible. Et Michel Onfray. Michel Onfray, évidemment, qui a une page intégrale dans le Figaro, mais ça j'ai envie de dire, c'est le Figaro. Si Michel Onfray n'a pas au moins une citation dans le Figaro du jour, il se roule par terre en disant que on peut plus rien dire. Ok, bah vous voyez, voilà. Et bah, morale de l'histoire. Morale de l'histoire, pour quelqu'un comme moi, et je dis bien pour quelqu'un comme moi, je ne me prétends pas être la cible du Figaro, ni représentatif du lectorat du Figaro, mais je trouve beaucoup plus intéressant de lire le Figaro version papier. En tout cas, je trouve des articles qui m'intéressent, plutôt que le Figaro magazine qui est hyper épais et dans lequel j'ai vaguement un article intéressant, quoi. Tu veux nous lire l'article sur Pape Ndiaye? Non, je meurs de faim, il va falloir que j'arrête ce stream à un moment. J'aurais dû manger avant de streamer. Ça, c'est mon erreur. Mon mauvais. My bad. Il n'était pas de gauche, Onfray? Si, il fut. En 2000-2001. Elle disait quoi, la tribune du Z? Elle disait, je suis le meilleur. C'est les électeurs qui n'ont pas compris. Je caricature à peine. je veux pas mettre des tirs à la tête à Zemmour juste comme ça. C'est vraiment, on l'a lu tout à l'heure, la tribune de Zemmour, c'était vraiment... Voilà les raisons pour lesquelles j'ai créé Reconquête, voilà pourquoi j'ai raison d'avoir créé Reconquête, et voilà pourquoi l'avenir, ça ne peut être que moi. Si, tu peux, il mérite. Non, mais c'est pas le sujet. Enfin, j'ai pas envie de porter un regard partisan sur Zemmour. Il propose une tribune stratégique une semaine avant le congrès des LR et il leur écrit « Votez pour moi. » C'est bah, bon. Si tu veux, Zemmour. Il a compris que la campagne était méritée. Était terminée. Il a pas compris que la campagne était terminée. Ouais. Et il est toujours en campagne. Et après, on parle du melon de Mélenchon. Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai qu'il y a pire. Non, mais c'est vrai. Foutez la paix à Mélenchon, au moins sur ce point-là. Faut reconnaître qu'il y a pire que lui. C'est pas le dernier, Mélenchon. C'est pas le sujet. Mais bon. Il y a plus impressionnant. C'est quoi les journaux intéressants pour toi? Bah, non, mais ça dépend ce que t'attends. L'intérêt que tu trouves dans un journal, c'est toi qui vas le trouver. J'aime beaucoup les articles d'analyse de l'actualité politique que tu vas trouver dans Le Monde, Le Figaro, Libération, et j'aime beaucoup les articles de fond et les enquêtes que tu vas trouver dans Mediapart, dans l'UMA, l'Express. Ils font parfois des interviews, des trucs intéressants, mais d'un point de vue un peu plus intellectuel, réflexion de fond, quoi. Voilà. Ouais, l'Obs aussi, ouais, l'Obs, ça leur arrive. Non, en vrai, l'Obs, c'est bien. Mais pareil, les articles d'actualité politique de l'Obs. Le Point, bah... Pff, le Point, mon père a été abonné pendant des années, donc quand j'étais petit, je l'avais à la maison, et j'ai toujours trouvé que c'était assez médiocre. Même à l'époque, hein, même avant qu'il se fasse racheter et tout, je trouvais ça quand même assez médiocre, Le Point. Le Point, moi, je le rangeais un peu à côté de Capital, Management, Magazine... Ces espèces de magazines porno pour cadre sup, racoleur, pas très intelligent, pas très intéressant. Bof. Le problème reste la subjectivité politique de certains journaux. Mais non, mais faut pas le voir comme un problème. Faut le voir comme une donnée. Enfin, tu, c'est un fait. Donc tu l'apprends pour ce que c'est. Tu l'apprends pour ce que c'est. Enfin, tu vois, je préfère lire une analyse du congrès Les Républicains dans un journal comme Le Figaro, qui a une fibre plus proche de celle des Républicains, qui donc nous propose un point de vue plus proche et plus intéressant des dynamiques internes aux Républicains. Là, en lisant l'article, j'ai vu des points, des manières de voir et des manières d'analyser que j'aurais jamais lues dans Libération ou dans l'Obs sur le congrès Les Républicains, donc tant mieux, je suis content. À choisir, je préfère.
Allez, on fait un Jean Massier Magazine. La presse papier, c'est pas l'avenir. Hein. Je. Sans moi, les gars. Hein. Franc-Tireur, tu l'as déjà lu, je sais pas ce que ça vaut. Je l'ai pas lu non plus. Franc-Tireur, je l'ai pas lu non plus. Mais je sais par qui il a été créé et pourquoi. Donc, c'est pas le genre de débat qui, moi, me passionne le plus. Encore une fois, moi, je suis très branché à analyse d'actualité politique. Institutionnel, c'est ça qui m'intéresse le plus. Donc moi, tu vois, le canard enchaîné, quoi, tu vois, typiquement, je préfère le canard. J'aime bien le canard. La Croix a de très bons articles. Ouais, La Croix. Là, non, mais La Croix, je lis jamais La Croix. Mais les rares fois où je le fais, c'est un très très bon journal, La Croix, hein, vraiment. Tu devrais lancer une sorte de magazine en live qui traiterait d'actu politique, tiens. Ah, c'est une bonne idée, ça. Genre en plateau, comme ça, on aurait des chroniqueurs. Et on ferait ça en direct sur Twitch. Mais tu crois que ça plairait aux gens, ça? Un espèce de. Ben ouais, un espèce de talk show d'actualité politique sur Internet? Ça marchera jamais, ce truc-là. Laisse tomber, ça marchera jamais. Vous mettriez de l'argent, vous, dans un truc comme ça? Pour que ça existe? Eh ben, faites chauffer la carte bleue, alors. Oh, il y a Clem qui stream le SL Open Cup. Il n'y a que moi que ça excite. Chez qui est-ce que je vous fais un raid? Je sais pas, moi. Il y a les jeunes avec Macron qui sont en stream. Mais en plus, je les connais pas, je les ai jamais rencontrés. J'ai déjà fait des raids chez des partis politiques, j'ai jamais fait de raid chez des partis politiques, j'ai jamais raid Mélenchon, j'ai jamais raid Jadot. Bon, écoutez, pour ceux que ça intéresse, les jeunes avec Macron sont en stream. Et c'est bien, moi, qu'ils fassent des trucs sur Twitch, c'est cool. T'as pas raid Hugo Bellerin ici? Si, Hugo, si. Si, j'ai déjà raid Hugo, mais Hugo, c'est un député. Alors, ok, c'est un député insoumis, mais c'était un député, il était dans l'hémicycle en train de streamer. Pas pareil. Sinon, il y a JDG. Ouais, je pense que ça va partir en raid JDG. Hein. Allez, on raid le JDG. Passez une bonne soirée. Alors, attends, c'est joueur underscore du underscore grenier. C'est ça? Ouais. Merci. Ah non, la chaîne a désactivé les raids. Ah non, JDG, il a désactivé les raids. Oh non, je peux pas raid JDG. Mais j'ai faim, moi. Ah mais non, en plus, c'est la soirée du lundi, là. Ils sont tous en train de jouer à un jeu de fantômes, de Ghostbusters. Chiant. Gastronogeek, il est en live? Tiens, alors oui, alors on va raid Gastronogeek, mais avant de raid Gastronogeek, je tenais à le remercier publiquement parce qu'il m'a offert ses deux derniers bouquins. Je suis trop content, je les ai reçus, regardez. Les deux derniers bouquins de Gastronogeek. La cuisine dans Zelda. Je suis trop content. Je suis trop content. La cuisine dans Zelda, donc c'est que des recommandations de plats issus des jeux Zelda. Avec comment les cuisiner, comment les préparer, etc. Donc, on en reparlera quand on parlera du stream Noël.
On fera un stream ensemble, je vais essayer de le faire cette semaine, où on se recommande des cadeaux de Noël, mais alors là, vraiment, la cuisine dans Zelda. Sublime. Et l'autre truc qu'il m'a envoyé, dans le même genre, c'est les pâtisseries enchantées sur le thème de Disney. Donc c'est un livre de recettes de pâtisserie sur le thème de Disney, la pomme empoisonnée. Donc comment faire une pomme d'amour, je suppose. Le porridge de Javotte. Le Paris-Brest de lumière. Les crêpes à vous couper le sifflet. Cookie Day. Les bananes flambées de Tiana. Ah bah oui, dans La princesse et la grenouille. Le Royal Wedding Cake pour le mariage de d'Ariel. Donc trop bien quoi. En vrai. Pâtisseries enchantées. Je recommande. Et avec ça, j'ai quoi? J'ai un disque. J'ai un CD de chansons. De Zelda. Mais c'est trop de la balle! Et puis j'ai une jolie carte de Zelda. Comment? Bon, je suis en train de flex. Tout ça pour dire merci. Salut Kyria. Livre de gastronomique. Mais oui, Kyria, regarde. Pâtisserie enchantée et la cuisine dans Zelda. GastronoGeek qui m'a envoyé ça. Non mais GastronoGeek le bro. Donc tout ça pour dire, raid chez GastronoGeek. Merci à lui. Hop. C'est quoi un CD? C'est un rond en plastique avec de la musique dessus. Slash raid. GastronoGeek qui est en train de faire un truc sur Star Wars. Je sais pas très bien ce que c'est. Il est en train de parler des livres Star Wars. Oh trop bien. Soirée Star Wars, la Haute République avec Captain Popcorn. Trop bien. Eh bah, passez une bonne soirée sur la chaîne de GastronoGeek. Merci à toutes et à tous d'avoir été là. Des bisous. À très bientôt. Ciao. À demain du coup. Demain 14h. Bisous.